And she cried, come see that man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost with him. Someday we'll come to the river at the closing of time, when the last thoughts of sorrow is gone. There'll be somebody waiting that'll show us the way. Well, I won't have to cross Jordan alone. There'll be one somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan. All that's got that hope, raise your hand up now as you raise your head. I won't have. I just worship him. The message is over. Aren't you happy? God swore he would. God swore he'd meet you there. Jesus died all my sins too. When the darkness hides, what do you say? The singer's gone. He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. I'm forsaken and weary. Just worship him now. It seems that my friends have all gone. Did you ever hit that place? But there's one that cheers me. What was it promised? It's my heart glad. I won't have to cross Jordan. Now, children of the promise, just worship him for doing it. I won't have.
Que le Seigneur vous bénisse. On va maintenant commencer la bande. Le signe de ce temps, prêché en 1963, le 13 novembre. Tout est possible. Crois seulement. C'est possible. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Inclinons notre tête maintenant pour un moment de prière. Notre gracieux Père Céleste, nous sommes vraiment heureux ce soir pour le privilège de venir ici à New York et de servir ton peuple et en ton nom. Nous sommes si heureux de les rencontrer, sachant qu'il y a un grand lendemain où nous nous rencontrerons, où nous n'aurons plus à prier pour les malades, car les malades se porteront toujours bien. Il n'y aura plus de longues nuits de prière pour les perdus, car alors ils seront tous sauvés. Et nous attendons ce jour où Jésus paraîtra, voyant que l'heure se rapproche avec des signes et des miracles qui pointent à ce moment. Cela nous fait nous arrêter un instant, Seigneur, pour penser à nous-mêmes et nous poser cette question maintenant. Sonde-moi, éprouve-moi, Seigneur, et s'il y a du mal en nous, retirez-le. Père, nous voulons te servir avec un cœur pur, des mains pures, car nous ne savons pas à quelle heure tu peux nous appeler et nous convoquer en haut. Nous irons te rencontrer. S'il y a ici ce soir, Seigneur, qui ne te connaissent pas en tant que leur sauveur pour leur pardon de leurs péchés, qui ne sont pas non plus nés de l'Esprit de Dieu, que ce soit le soir où ils prendront cette décision et que Dieu les remplira de sa bonté, guéris tous les malades, Père, ici, tous les affligés, qu'il n'y ait plus une seule personne faible dans le bâtiment, à la fin de la réunion, ou pas de pécheurs. Puissions-nous voir cela arriver pour l'honneur de la gloire de Dieu? Nous le demandons au nom de son enfant bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Assoyez-vous. C'est un grand privilège d'être à nouveau ici ce soir pour être une fois de plus à son service au nom de notre Sauveur bien-aimé, celui qui existe par lui-même. Comme nous parlions hier soir de l'ange du Seigneur du signe de Sodome, lorsque cet ange était resté derrière pour parler à Abraham, cet homme qui était un ange, c'était Dieu dans une forme humaine parce qu'Abraham l'a appelé Seigneur. Tout lecteur de la Bible sait que la majuscule S-E-I-G-N-E-U-R vient de au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et ce qui veut dire Elohim, qui signifie celui qui existe par lui-même, le Tout-Puissant. Et Dieu s'est fait connaître à Abraham sous forme d'un homme, juste un voyageur poussiéreux, c'est ce qu'il semblait être. Il n'a jamais dit d'où il venait, mais remarquez, quand il a parlé à Abraham, il a dit « Je ferai ceci, je vous l'ai promis », voyez, et il l'a appelé par son nom de père, Abraham, qui venait d'être changé d'Abraham quelques jours auparavant. Mais maintenant, c'était Abraham. Il appelait Sarai, Sarah, une princesse. Et puis Dieu a disparu de devant Abraham et est descendu à Sodome. Et c'était leur dernier signe. Le feu est tombé du ciel et a détruit tout Sodome et Gomorre et les villes aux alentours, montrant en préfiguration ce qui deviendrait du monde des gentils. Il sera détruit. Il sera détruit par le feu. Dieu a promis cela, qu'il ne détruirait plus le monde par l'eau en nous donnant un signe. Dieu ne fait jamais rien sans un signe. Il nous a donné le signe de l'arc-en-ciel comme alliance, qu'il ne détruirait plus le monde par l'eau. Mais maintenant, cette fois, ce sera par le feu. Et comme Jésus a fait référence des temps anciens, il a dit comme il en était au jour de Noé, lorsque l'on bâtissait l'arche et où seulement 8 âmes ont été sauvées par l'eau, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Regardez la minorité là, comme il en était, et où 8 âmes ont été sauvées par l'eau. Puis il a continué de parler de la morale de ce jour, manger, boire, se marier, donner en mariage, et si. Je lisais cela il y a quelque temps et je commentais là-dessus en prêchant. Et puis j'ai vu que Jésus a lu la même Genèse que je lis et que vous lisez. Et je suis donc retourné dans la Genèse 6 pour voir ce qu'ils ont fait en ce jour-là. Et nous constatons que les fils de Dieu se sont pris des filles parmi des hommes. J'ai regardé leur traduction là-dessus. Elle dit « On prie pour eux des femmes, pas des filles ». C'était comme dans la ville de Reno, Nevada, juste le mariage, le divorce comme à Hollywood et ainsi de suite. Et puis il a dit, ces hommes étaient renommés à cette époque. Alors vous avez vu dans le magazine Life où ce grand scandale a fait surface en Angleterre de ces hommes renommés, de ces prostituées, de ces choses et comment nos dirigeants et oh là là, quelle dévastation nous voyons juste exactement. La représentation que Jésus avait dit qui prendrait place, voyez, manger, boire, se marier, donner en mariage, et ils n'ont rien su avant le jour où Noé est entré dans l'arche. Et là, la porte était fermée, il n'y avait plus aucune chance, c'était son dernier sermon. Le dernier sermon qui a été prêché dans tout grand ministère l'a été pour ceux qui ne pouvaient pas être sauvés. Noé, son dernier message était pour ceux qui ne pouvaient plus être sauvés. Voyez, il est entré et la porte s'est fermée derrière lui. Puis il est entré à l'intérieur 7 jours avant qu'il ne commence à pleuvoir. Voyez, son message a d'abord été la prédication, la construction de l'arche, et ensuite fermé 7 jours. Les gens disaient, ce vieux fanatique, voyez, il est juste là-dedans, il a lui-même fermé la porte. Mais Dieu l'avait fermé, la même chose qu'à Sodome. Regardez notre Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il était un jeune prophète de Galilée, il est allé dans la synagogue et tout le monde l'aimait. Il a guéri les malades, c'était la première partie de son ministère, la première étape. La deuxième étape était la prophétie. Quand il a commencé à réprimander les pharisiens et les sadducéens de tout ce temps, leur disant ce qu'il était et combien il était aveugle, il ne pouvait pas voir cela et qu'il était et ainsi de suite. Vous savez ce qu'il allait leur arriver. Par cela, il a été condamné. Sur cette base, il a été crucifié, mais il ne pouvait pas arrêter le message. Vous pouvez arrêter le messager, mais pas le message, et la Bible le dit. Il est allé en enfer et a prêché aux âmes qui étaient en prison, qui étaient autrefois étaient désobéissantes. Et là-bas, son dernier message était pour les perdus. Ce serait terrible de penser maintenant que l'un de ces jours, les gens continueront à prêcher comme ils l'ont fait du temps de Noé. Ils continueront exactement de la même manière. Mais à un moment perdu, mais à un monde perdu pour qui la porte est déjà fermée. Nous ne savons pas à quelle heure cela pourrait se produire. Aussi, si vous n'êtes pas un chrétien ce soir, pensez-y vraiment. Réfléchissez sérieusement maintenant. Il n'y a qu'une chose que nous savons faire, c'est de suivre les instructions de notre Seigneur. Il nous a laissé prêcher l'Évangile à toute la création. Il sait que qui est sauvé et qui ne l'est pas. Nous ne le savons pas. Nous jetons simplement le filet dans la mer et nous nous ramenons de toutes sortes. Mais Dieu sait qui est sauvé et qui ne l'est pas. Et nul ne peut venir à lui, à moins que le Père ne l'attire, et tous ceux que le Père lui a donnés viendront. Nous ne savons pas cela, voyez. Nous ne pouvons donc pas dire que celui-ci est un chrétien et celui-ci n'est pas un, parce qu'il a dit le royaume de cieux est semblable à un homme qui a pris un filet, est allé à la mer et l'a jeté, a ramené le filet. Il y avait des poissons de toute espèce, il y avait des araignées, des insectes, des serpents et des poissons vidangeurs et des bons poissons. Et mais vous voyez, les insectes d'eau et les autres choses sont finalement retournées à l'eau, mais le bon poisson était gardé pour le maître, donc nous ne savons pas qui il est. Nous jetons simplement le filet. Mais rappelez-vous, cet insecte d'eau était un insecte d'eau quand le filet l'a attrapé. C'est l'influence de la réunion qui l'a attrapé. Le serpent était encore un serpent. Le filet de l'Évangile l'avait simplement attrapé. Le poisson vidangeur était un poisson vidangeur. La tortue était une tortue et les écrevisses étaient des écrevisses, voyez. Mais le véritable poisson était un poisson pour commencer. Donc, il sait qui il est parce qu'il est, il a leur nom dans son livre. Il les a mis là quand l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Nous sommes ici pour essayer de faire notre part. Maintenant, frère Vic est là sur le coin jetant le filet depuis de nombreuses années. D'autres ministres ont été à d'autres, dans d'autres coins jetant le filet. Je viens tisser mon filet avec vous, les frères, afin que nous puissions attraper de bonnes prises et continuer à s'attirer comme le pêcheur au coin du lac. L'un de ces jours, le dernier poisson sera retiré du lac. La pêche sera terminée alors. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Prions et soyons sincères et à l'approche de cette heure. Maintenant, ce soir, nous allons prier pour les malades. Nous les distribuons. Je crois que Billy, je n'ai pas réussi à lui parler. A-t-il distribué ses cartes, des cartes de prière? Oui, oh, bien sûr. Allez, bien, c'est bon, très bien. Nous, hier soir, nous construirons une plateforme pour ce soir, pour une réunion de prière. Et puis, j'ai pensé qu'on pourrait prendre un soir ou deux pour la prédication, et nous verrons combien de personnes n'ont pas reçu le Saint-Esprit, car c'est la chose principale, voyez. Si vous êtes guéri, Dieu vous guérira, bien sûr. Il l'a déjà fait. Il vous suffit de le croire. Mais si vous allez peut-être tomber malade et si vous vivez assez longtemps, mais quand vous êtes sauvé, c'est différent. Vous voyez cela, vous voyez? Et maintenant, nous allons dire ceci parce qu'il y a parfois des étrangers qui viennent et peut-être durant la réunion n'ont jamais vu un service de guérison. Et bien des fois, ils essaient de coller ce mot sur vous, un guérisseur divin, mais il n'y a qu'un seul guérisseur divin, c'est Dieu. Et franchement, il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est Dieu. Maintenant, les médecins ne prétendent pas être des guérisseurs. Ils ne sont pas des guérisseurs. Ils ne prétendent pas l'être. Quand ce serait-il si je sortais et que je me casse le bras et que j'entre là et je dis « Docteur, guéris mon bras. Vite, je dois terminer mon travail. » Il dirait « Vous avez besoin d'être soigné mentalement. » Eh bien, ce serait vrai, voyez. Maintenant, le médecin peut remplacer mon bras. Mais c'est Dieu qui fait la guérison. Si je me coupe la main et que je dis « Docteur, j'ai coupé ma main. Guéris-la vite pour moi. » Il ne peut pas le faire. La seule chose qu'il puisse faire, c'est de la laver. Si la coupure est large, il peut la recoudre, mais Dieu doit la guérir. Voyez, la nature doit développer des cellules, la vie doit ressembler tout ça, le corps doit produire du calcium et ainsi de suite, et la vie lui-même, le calcium ne guérit pas, c'est la vie. Voyez, il n'y a aucun médicament qui guérit, la médecine ne fait pas que garder la plaie saine alors que Dieu guérit, voyez, aucun médicament ne guérit. Si je me coupe la main et tombais mort ici, voyez, si vous me conduisez chez le médecin et disiez, voulez-vous guérir cet homme? Il dirait, mais il est mort. Bon, alors vous direz, recousez-le et vous avez un médicament qui guérit cette main, n'est-ce pas? Non, nous n'en avons pas. Pardon. Un instant. Vous voyez, s'il me recousait, m'injectait un liquide d'embaumement qui me conserverait naturellement pendant 100 ans, il m'injecterait une piqûre de pénicilline tous les jours, il mettrait du baume à cet endroit, ça ne guérirait certainement pas. Pourquoi? Parce que c'est une vie en est sortie. Alors, lequel est le guérisseur, le médecin ou la vie? Maintenant, dites-moi ce qu'est la vie, je vous dirai qui est Dieu, voyez? Dieu est la vie, voyez? Vous êtes... Nous avons dit hier soir que nous avons tellement de mécanique et pas de dynamique. Maintenant, mon corps est la mécanique, mais mon corps ne fonctionne pas sans dynamique, l'esprit, voyez? Et l'esprit opère mon corps et il le contrôle, comme une automobile sans essence, sans puissance d'allumage, voyez? Peu importe combien la dynamique, ou je veux dire la mécanique, est à point, le cylindre, les pointes et les bougies et le reste, il doit y avoir du courant, tout doit opérer ensemble. Dieu est comme ça. Il faut que le croyant s'unisse à Dieu pour faire le contact. Alors quelque chose va se passer. Ainsi, le guérisseur divin est tout comme le salut. Aucun homme qui prêche l'évangile du salut de votre âme ne pourrait être appelé un sauveur divin. Il n'est pas plus un sauveur divin que l'homme qui prêche la guérison divine n'est un guérisseur divin, parce que l'homme ne peut pas dire qu'il peut sauver une personne, car Jésus l'a déjà fait, voyez, très bien. Mais par sa prédication, il les dirige vers Christ qui est le Sauveur. La guérison divine ne fait qu'indiquer l'œuvre terminée au calvaire, car il a été blessé pour nos transgressions. Par ses meurtrisseurs, nous avons été guéris. Voyez-vous, la guérison divine n'est pas quelque chose qu'un certain homme possède, qu'il peut appliquer sur vous. C'est ce que votre foi est dans une œuvre accomplie. Si Jésus se tenait ici ce soir, dans ce complet qu'il m'a donné, il ne pourrait pas vous guérir. Il ne fait que, vous pourriez savoir que c'est Jésus, mais il ne pourrait pas vous guérir parce qu'il l'a déjà fait. Voyez, il vous faudrait le croire. Maintenant, il dirait, mon enfant, ne sais-tu pas que mes meurtrissures, tu as été guéri? Voyez, il l'a déjà fait. C'est déjà une œuvre accomplie, c'est du passé. Nous le croyons simplement maintenant, et pour moi, la parole est suffisante. Si vous disiez quelque chose à quelqu'un et qu'il ne veut pas le croire, eh bien, cela est suffisant. Laissez-le aller sans le croire. Mais cela n'est pas Dieu, voyez. C'est comme un petit chant d'un ministre et sa femme chantait, pas comme un mortel en pardonne un autre. Jésus pardonne et oublie, voyez. Nous ne pouvons pas l'oublier, voyez, mais lui, il le peut. Il est Dieu et il peut oublier. Ça n'a jamais été. Il met dans la mer de l'oubli. Il n'en se souvient plus, même plus. Il est Dieu, il est peut-être, il est un peu, maintenant quand vous croyez en lui, qu'il a fait cela pour vous, il vous a guéri quand il a été blessé pour vos transgressions, et que par ses meurtrissures, vous avez été guéri au passé. Maintenant, la seule chose que vous devez faire, c'est de la croire, et la parole l'enseigne. Personne ne peut dire que la parole ne l'enseigne pas, car elle l'enseigne. Maintenant, nous voyons tellement de preuves partout que les gens sont guéris, car la guérison divine existe. Or, si c'était vous ou moi et que nous aurions donné notre parole souveraine comme Dieu, eh bien, si les gens ne veulent pas le croire, ils ne seraient pas obligés. Après tout, c'est eux qui sont malades et non pas Dieu. Et il a aussi placé dans l'Église des apôtres, prophètes, enseignants, pasteurs et des évangélistes. Voyez tout cela pour le perfectionnement du corps. Et dans ce corps et dans chaque corps local, il a donné 9 dons spirituels et ces dons sont différents. La sagesse, la connaissance, le parler en langue, les dons de guérison, l'interprétation des langues, etc. 9 dons spirituels, tous pour montrer son amour envers l'Église, voyez, parce qu'il veut que vous réussissiez en ordre, le grand Saint-Esprit lui-même étant le tuteur de l'Église. C'est dommage que nous ayons choisi un évêque au lieu du Saint-Esprit pour être notre tuteur, voyez. Mais nous, le Saint-Esprit est le tuteur que Dieu a donné à l'Église pour diriger l'Église, pour l'amener dans la volonté de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit définit librement ses dons dans l'Église et il fonctionne parfaitement si vous ne vous excitez pas en essayant de prendre juste ce que vous pensez. C'est là que les gens font leurs erreurs. Je vois cela parmi les gens, quelqu'un est influencé et devient un peu glorifié par le Saint-Esprit, ce qui est merveilleux, il est stimulé, mais il y aura quelqu'un qui viendra et vous dira, est-ce que le Seigneur dit telle et telle chose? Voyez, vous n'êtes pas obligé de leur répondre. Ne le dites pas à moins que Dieu le dise. Alors, vous avez ainsi dit le Seigneur. Ensuite, rien ne peut l'empêcher de se produire. Il faut seulement que ça se produise. Je prends quiconque à ma charge ce soir qui n'a jamais entendu le Saint-Esprit parler dans les réunions et ainsi dit le Seigneur, qui ne s'est pas parfaitement accompli exactement sur les millions de cas. Voyez, ce doit absolument être juste. Si le Saint-Esprit venait ce soir et me disait par une vision, « Je veux que tu ailles au cimetière présidentiel demain et je vais ressusciter George Washington. J'inviterai le monde entier à venir le voir s'accomplir. » Cela pourrait devoir arriver, voyez, car le Saint-Esprit l'a dit. Cela en fait la vérité. Mais avant qu'il le dise, attendez simplement, vous voyez? Voyez, vous savez que vous êtes sauvé, vous savez que vous avez rempli de sa bonté, vous savez comment, et s'il est en vous, il vivra sa vie au travers de vous, alors vous soyez simplement satisfait, il veut vous utiliser, il va certainement le faire, voyez, il sait où vous en êtes. Et je pense qu'en faisant cela, avec votre amour et en communion les uns avec les autres, nous oublions toutes ces conglomérations, dénominations et barrières et les grandes armées de Dieu marchent vers la victoire. Je vais lire une petite partie de l'Écriture ce soir, et si plusieurs d'entre vous veulent lire avec moi, si vous le voulez, eh bien, vous le pouvez certainement, et maintenant, nous allons le lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, si vous voulez le lire avec moi, le verset 38, dans Matthieu, au chapitre 12. Et je veux annoncer maintenant le sujet sur lequel je veux parler, le signe de ce temps. C'est un petit texte familier, et j'en parle juste parce que j'ai pitié, prié, et je n'aime pas sortir de la prédication dure, puis ensuite de revenir à cette ligne, parce que tout le monde sait que les dons du Saint-Esprit travaillent dans un certain canal. Il y a le don de guérison par le même esprit, le don des langues par le même esprit, simplement un autre canal, et vous tirez de l'un vers l'autre, alors lisons maintenant. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Mais il répondit et leur dit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Nous voyons ici que notre Seigneur, dans l'Écriture que nous venons de lire, reflétait exactement ce que croyaient les Juifs. Les Juifs croyaient au miracle. Et ils étaient venus vers Jésus, ces théologiens, et discutaient avec lui qu'ils auraient aimé le voir faire un miracle. Maintenant, vous voyez à quel point ils étaient aveugles. Il avait déjà démontré son signe, qu'il était le Messie. Nous en parlions hier soir. Combien étaient ici hier soir? Voyons voir. C'est bon, très bien. Nous parlions là-dessus hier soir et nous avons prouvé à l'auditoire que le signe messianique qu'il était censé démontrer, c'est ce qu'il était le prophète dont Moïse avait annoncé la venue. Et tous ceux qui n'écoutaient pas ce prophète se seront retranchés du peuple. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. Mais quand il est venu et accompli le signe du prophète, eh bien, beaucoup d'entre eux se plaisaient à dire qu'il était un Belzéboub ou un mauvais esprit. Il leur a dit, « Maintenant, cela vous est pardonné, mais quand le Saint-Esprit sera venu, quiconque parlera contre cela, faisant la même œuvre, Bien sûr, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Maintenant, nous ne voulons pas prendre ces choses à la légère. Nous devons nous approcher sincèrement et les examiner. Jésus a fait cette déclaration que lorsque le Saint-Esprit viendra et fera les mêmes œuvres qu'il a faites, de dire un seul mot contre cela ne sera jamais pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Maintenant, rappelez-vous, le Saint-Esprit n'a pas été donné avant la Pentecôte. Et la personne Jésus-Christ avait déjà témoigné aux Juifs. La personne de Jésus-Christ avait témoigné aux Samaritains. Donc, un Dieu juste ne pouvait pas condamner un peuple juste. Il devait y avoir un peuple injuste pour que Dieu les condamne. Eh bien, ce Saint-Esprit doit revenir dans les derniers jours sur l'Église et démontrer les mêmes signes qu'il faisait alors, car Dieu ne change jamais sa manière de faire. Dieu ne fait jamais une chose d'une certaine façon, puis d'une autre façon, la fois suivante, d'une manière différente. Voyez, sa première décision est parfaite parce qu'il est Dieu. Voyez, sa parole ne peut pas être modifiée. Et il n'a rien appris de plus durant ces 6000 ans de l'histoire humaine. Il n'a rien appris de plus que ce qu'il savait au début, car il est infini pour commencer. Voyez, il ne change jamais sa parole. Il a choisi de sauver l'homme par le sang versé d'un innocent. Nous avons essayé de les éduquer, nous avons essayé de les dénominationaliser. Nous avons tous essayé dans le monde, dans la vie sociale, et nous avons tout à échoué et continué d'échouer jusqu'à ce que nous revenions tous sous le sang. C'est le seul endroit de communion. Dieu ne change jamais. Quand Dieu dit quelque chose, ça doit toujours rester ainsi. Si un homme est venu à Dieu et que Dieu a guéri cet homme sur la base de sa foi, il doit faire la même chose pour l'homme qui vient de la même manière où il a mal agi quand il a guéri le premier homme. S'il a sauvé un homme sous le sang et par cela seulement, il a laissé quelqu'un s'en sortir juste avec l'éducation ou le fait d'être un théologien ou quelque chose sans que le sang versé ne lui ait été appliqué. Il a mal agi quand il a exigé que le sang pour le premier homme. Voyez, il doit toujours rester le même. Son but a toujours été le même. Ses actions ont toujours été les mêmes. Dieu n'a jamais en aucun temps traité avec une organisation. Consultez l'histoire. Il traite toujours avec un individu. Jamais avec un groupe. Un individu. Nous trouvons dans l'histoire que lorsque de grands hommes s'élevaient et le Seigneur les envoyait sur la scène, et quand ils mouraient, on faisait d'eux une organisation, et ce n'est jamais arrivé auparavant que des gens ne soient organisés et que cette organisation meure et qu'elle retourne dans les sphères spirituelles comme auparavant. Je viens de passer au travers une vingtaine d'années d'histoire biblique. Il n'y a aucun endroit où ils se sont relevés. Dieu traite avec aujourd'hui. Ce qu'il fera demain dépend de lui. Et il traite toujours avec nous individuellement. Voyez, parce que des groupes d'hommes ont trop d'idées. Regardez, même les apôtres, après avoir essayé d'en choisir un, à cause de la chute de Judas, ils ont jeté le sort, il est tombé sur Matthias. C'était le mieux qu'il pouvait faire avec les clés du royaume. Il n'y avait pas d'écriture indiquant qu'il a fait quelque chose, mais Dieu a choisi Saul, un petit homme, un mauvais caractère, mais il a dû le jeter sur son dos un jour et le laisser lever les yeux un peu. Il a dit, « Je vais lui montrer quelles grandes choses il devra souffrir pour moi. » Voyez, l'Église a choisi Matthias, mais Dieu a choisi Paul. Voyez, c'est la différence. Dieu fait toujours son choix, son élection. Dieu fait cela par élection, par sa préscience. Maintenant, nous voyons que Dieu a toujours traité avec les gens par des signes et des prodiges. Il a promis les signes des derniers jours. Dieu ne peut pas changer sa politique. Il parle toujours au peuple par ses prophètes. Il y a eu bien des fois tout au long des âges, mais Dieu a toujours eu un prophète quelque part à qui il pouvait parler tout à ceux qui... La parole du Seigneur venait, et de cette manière seulement, voyez à ce prophète, voyez. Il cherchait toujours à savoir où était ce prophète. Un voyant signifie soit prédire ou annoncer. Il y a un voyant qui voit les choses qui vont se produire. Il les prédit aux gens et la Bible dit cela. Si cela ne s'accomplit pas, alors ne l'écoutez pas. Cela doit s'accomplir à chaque fois. Dieu ne peut pas faillir, voyez. Et si cela ne s'accomplit pas, alors il a dit qu'il n'était pas avec cette personne. Alors c'est ça, les gens savaient que la parole du Seigneur était avec ce voyant, qu'il avait les voyants de l'Ancien Testament. Maintenant, le Saint-Esprit ne change pas cette manière de faire. Jésus a dit, « Quand lui, le Saint-Esprit, sera venu sur vous, il vous enseignera ces choses que je vous ai enseignées et que je vous ai dites, et il vous montrera les choses à venir. » Voyez, il ne change jamais son système, toujours le même. Par conséquent, nous pouvons avoir confiance en lui. Mais vous voyez, notre partie humaine se retrouve complètement mêlée à différentes choses, et des groupes d'hommes se réunissent et votent pour ceci et cela. C'est là ce qui nous écarte du chemin, voyez. De dire, eh bien, c'était pour un autre jour. Non, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et toute la parole est inspirée entièrement. Jésus est venu exactement avec le signe qui devait le suivre, comme Moïse a prédit que le Messie serait un prophète, loin que le Seigneur susciterait. Il avait clairement démontré qu'il était ce prophète. Et maintenant, ces pharisiens sont venus à lui et ont dit, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il a dit, à un endroit, il a dit, « Si vous aimeriez le lire dans Matthieu au 16e chapitre et le 3e verset de 1 à 3, ils lui ont à nouveau demandé un signe. Il a dit, « Vous êtes des pharisiens aveugles, des hypocrites. Vous sortez et vous voyez le coucher du soleil. » Il a dit, « Vous vous dites, « Demain, il fera beau, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, le ciel est d'un rouge sombre. » Il a dit, « Hypocrites, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Ils auraient dû le savoir. Bon, maintenant, si le Saint-Esprit qui vient dans les derniers jours doit manifester exactement la vie de Christ dans l'Église, voyez, et le monde qui rit de cela ou dit un mot contre cela sera détruit par l'autorité de la parole de Dieu. Donc, vous voyez ce que le monde a fait. Et les conditions pour que Dieu fasse pleuvoir le jugement du ciel sont exactement en place maintenant. Notre nation, nos villes, notre monde est mûr pour le jugement. Et je suis sûr qu'il est plus tard que nous le pensons. Il a dit qu'il faudrait abréger les temps à cause des élus, sinon aucune chair ne serait sauvée. Pensez simplement à ce que jour après jour, année après année, ça empire. Regardez. Vous, les gens de la sainteté, les pentecôtistes, comme la corruption est entrée dans les églises, les disputes qui se poursuivent. Regardez nos femmes. Avant, c'était mal pour elles de se couper les cheveux, et la Bible dit, c'est faux. Mais elles le font de toute façon, c'est la Bible. Elle dit de ne pas le faire et de porter ses vêtements qui ressemblent à des vêtements d'hommes. La Bible a dit, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Oh, vous dites, ce sont les méthodistes, ce sont les pentecôtistes. C'est vrai, ils le font tous, voyez. Pourquoi est-ce comme ça? Vous aimez vos émissions de télévision plus que vous vous souciez de lire la Bible, voyez-vous. Vous faites de ces personnes votre exemple au lieu de la parole de Dieu, voyez. Maintenant, il doit y avoir un jugement et cela empire de plus en plus. Jésus leur a dit qu'il y aurait un signe. Il a parlé des signes du dernier jour. Et hier soir, il nous a dit, comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme, que l'Esprit de Dieu sera révélé au dernier jour dans une chair humaine, qui sera capable de discerner les pensées qui sont dans l'esprit, le cœur. Maintenant, la Bible dit que la parole de Dieu fait cela. Hébreux 4, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la raison pour laquelle Jésus était la parole au commencement, Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et habitée parmi nous. C'est la raison pour laquelle il pouvait les regarder et percevoir leurs pensées. C'est la raison pour laquelle il a pu dire à la femme au puits, « Voyez, tu as cinq maris. » C'est la raison pour laquelle il pouvait dire à Philippe, quand il était amené Nathanaël, il a dit à Nathanaël, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Il a dit, « Rabbi, D'où me connais-tu? Il a dit, avant que Philippe ne t'appelle, lorsque tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il discerne les pensées, où il y a tellement d'endroits dans l'Écriture où il s'identifie. Ce n'était pas pour les gentils. Pas une seule fois, il ne s'est identifié à des gentils comme ça. Sondez les Écritures, pas une seule fois. C'est pour aujourd'hui, voyez? Les gentils ont 2000 ans d'études et de théologie. Il se prend un peuple parmi les gentils pour son nom. Mais maintenant, c'est le temps où ces choses doivent être faites, juste avant le feu, comme c'était le cas à Sodome. Jésus était là avec son signe identifié et confirmé, un signe scripturaire pour le peuple. Et pourtant, ces Juifs disaient, « Je voudrais te voir faire un miracle. » Avez-vous déjà vu des gens qui sont incroyants, qui vous disent cela? Oh, si c'est vrai, je connais tel et tel dans la rue ici. S'il les guérit, voyez. Oh, c'est, vous pouvez voir ce que c'est Satan, la même chose. Vous savez qu'ils ont dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Ils ont mis un bandeau sur ses yeux. Ils ont dit, ce type dit qu'il est un prophète. Ils l'ont frappé sur la tête avec un bâton, avec un bandeau sur son visage. Ils ont dit, maintenant, prophétise et dis-nous qui t'a frappé. Comme ils se passaient le bâton l'un à l'autre, ils ont dit, nous te croirons. Mais voyez-vous, Dieu ne fait pas le pitre pour personne. Jésus a dit, je vais seulement ce que le Père me montre, voyez, c'est vrai. Voilà un véritable serviteur de Dieu, toujours obéissant à son maître, voyez. Non pas se montrer ou dire quelque chose pour exalter quelqu'un d'autre, mais d'être honnête et sincère avec celui qui l'a envoyé. C'est le véritable serviteur de Christ. Comme Eliezer, le représentant venu d'Abraham, voyez, pour choisir une épouse pour Isaac, la belle Rebecca, obéissant, le serviteur modèle, voyez, prenait soin des affaires de son maître. Seulement, quel type de Saint-Esprit aujourd'hui, la même chose, choisissant une épouse, voyez, au temps du soir, alors que les lumières s'éteignaient. Ainsi, il voulait voir un miracle, bien qu'il ait été identifié par des signes entièrement scripturaires. Il ne voulait toujours pas croire le signe de la Bible. Il voulait qu'il fasse le pitre. Et ne le voyez-vous pas? C'est le même genre d'esprit qui a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres et des anges à son sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Mais il n'était pas en train de heurter son pied contre une pierre, voyez, c'est ça. Puis il a dit aussi là, si vous avez remarqué, quand il a mis ceci sur la croix, et ainsi de suite. Maintenant, cet esprit-là était ces pharisiens qui disaient, « Nous voudrions te voir faire un miracle. » Il a dit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » Remarquez. Et lui, Dieu, dans tous les âges, a eu des signes pour son peuple et il ne fait rien. Dieu n'envoie un signe toujours. Il envoie premièrement un signe. Il a promis qu'il ferait la même chose car il ne peut pas changer. Ainsi, lorsque nous voyons apparaître le temps de la fin, les signes du temps de la fin et même le dernier signe promis avant que Sodome ne soit brûlé, nous avons eu de la joie. Nous avons vu les étoiles être ébranlées dans le ciel. Nous avons eu de guerre et des rumeurs de guerre. Nous avons eu des tremblements de terre dans divers lieux et toutes ces choses avec les dons de l'Esprit qui sont revenus dans l'Église. Nous avons eu toutes ces différentes manifestations de grands services de guérison et ces choses qui le montrent. Ce sont tous des signes, mais le dernier signe, juste avant les gentils soient brûlés, était ce signe, Dieu manifesté dans la chair humaine. C'est juste, et Jésus dit qu'il en serait de même à son retour. Nous devrions être sur nos gardes maintenant et nous mettre parfaitement en règle avec Dieu. Assurez-vous que vous êtes en règle maintenant. Ils devaient, ces Juifs, toujours s'appuyer sur leurs signes. Vous le savez, au lieu de la théologie et des sermons, ils devaient s'appuyer sur un signe, parce que les véritables et réels croyants croyaient toujours que Dieu était un Dieu de puissance. Et là où est Dieu, les signes doivent se produire. Vous voyez, c'est comme de battre un morceau d'acier chaud sur une enclume. Vous voyez, les étoiles doivent jaillir, se reflète. Et pourtant, où est Dieu? Il y a aussi des signes et des miracles. Jésus a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru, les ministères dans le monde entier. Voyez, ces signes les accompagneront. Toujours des signes. Dieu donne toujours des signes, comme il l'a fait au commencement. Il les donne à chaque génération et à la fin. Il l'a fait du temps de Noé. Noé était un signe pour cette génération. Il était un fanatique aux yeux du monde. Pour les scientifiques, eh bien, son message ne s'ajustait en rien à leur compréhension scientifique. Il disait, l'eau va tomber du ciel, il y avait un déluge sur la Terre. Ils pouvaient probablement prendre des mesures sur la Lune ou avec leur radar ou peu importe ce qu'ils avaient. Ils ont dit, il n'y a pas d'eau là-haut. Je peux scientifiquement prouver qu'il n'y a pas d'eau là-haut. C'est ce que les scientifiques ont dû dire. Mais Noé a dit, Dieu est capable. S'il n'y a pas d'eau là-haut, il est le créateur, il peut en mettre de l'eau. Il sait comment le faire, mais il était un signe. Il a poursuivi la construction d'une arche alors qu'il n'y avait pas d'eau pour qu'elle flotte, mais il l'a construite de toute façon. Il était un signe pour ce peuple. Eh bien, Moïse était un signe en l'Église. Quand ils ont vu ces grands miracles et tout, Salomon et les autres, alors nous voyons ici qu'ils ont appelé Jésus le signe qui leur donnait le véritable signe prophétique de leurs Écritures. Oh, il y a beaucoup de signes qui ne sont pas des signes scripturaires. Nous devons avoir des signes scripturaires. Ça doit être ainsi dit le Seigneur de cette Bible, voyez. Alors, nous savons que c'est juste. Bien sûr, il y a des choses qui s'y rapportent, car Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il est Dieu, mais je sais qu'il garde sa parole. Alors, je veux le voir dans sa parole. Alors, je sais que c'est vrai, parce que c'est la parole. Maintenant, nous découvrons qu'en ce temps-ci, Jésus montre son signe scripturaire et pourtant ils appellent ce signe scripturaire parce qu'ils n'ont pas voulu croire que c'était un signe scripturaire. Ils devaient donner une explication aux gens, alors ils disaient c'est sa pensée, il est possédé du diable, ils l'ont appelé Belzébub. Il les réprimandait pour cela. Qu'en serait-il quand il reviendra? Remarquez, il s'est référé à Jonas, comme il en était au jour de Jonas. Indiquant de Jonas qu'il en serait ainsi dans le Fils et à la venue du Fils de l'homme. Or, beaucoup de gens condamnent Jonas. Je ne condamne pas Jonas. Vous savez, ils disent, eh bien, c'est un Jonas. Vous avez entendu cette expression. Mais vous ne devez pas dire ça. Les chrétiens, vous ne devriez pas condamner les serviteurs de Dieu. Jonas était un prophète. Il n'était pas sorti de la volonté de Dieu. Il l'a fait parfaitement. Il devait la faire en tant que signe. Tout ce qui arrive n'est pas simplement parce que ça arrive. Ça arrive en tant que signe. Une fois, un prophète devait épouser une prostituée, avoir des enfants d'elle. L'un a dû se coucher sur son côté pendant 340 jours, puis se retourner de l'autre côté. L'un a enlevé ses vêtements et tout était fait en tant que signe. Voyez, Jonas devait faire comme un signe. Rappelez-vous, Abraham a dû épouser Agar contre sa propre volonté quand Sarah lui a donné la servante, mais il l'a refusée. Puis Dieu lui est apparu et a dit, « Écoute, Sarah, parce que... » La femme libre n'héritera pas avec la femme esclave. Elle devait avoir un enfant qui serait rejeté. Qu'est-ce que c'était? Un signe. Ce sont tous des signes. Et Jonas, c'était un signe. Maintenant, si vous remarquez, Jésus s'y réfère ici. Une génération méchante et adultère demandera un miracle et ils l'auront. Car le prophète Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. De quoi Jonas était-il le signe alors? Il était un signe de la résurrection. Très bien. Maintenant, s'il y a eu déjà une génération pervertie, nous vivons dedans. Nous savons cela, c'est perverti mentalement, physiquement, sexuellement, tout, c'est perverti. Une génération méchante, des incroyants encore plus. Je suppose que jamais ils sont des incroyants du genre ecclésiastique. Et c'est le genre le plus difficile avec qui traiter. Je suis un missionnaire. Je travaillais sur les champs et j'ai vu quand ils amenaient les païens et qui ne distinguaient même pas leur droite et de leur gauche, et je ne le savais pas, eh bien, ils arrivaient dans cette condition, ils n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Maintenant, ils veulent voir quelque chose, et aussitôt que vous pouvez lui prouver que c'est la vérité, il va l'accepter. Mais les païens instruits, voyez, c'est un mot terrible à utiliser, mais c'est la vérité, voyez. Le païen instruit, il veut en tirer sa propre opinion, voyez. Il en connaît tellement sur le sujet. Il peut s'humilier jusqu'à la foi pour regarder la parole de Dieu. C'est comme ça qu'étaient ces pharisiens ce jour-là. Ils ne pouvaient simplement regarder la parole. C'était là, mais ils ne voulaient pas le voir. Et la partie pitoyable, c'est de savoir qu'ils étaient aveugles. Dieu avait fait cela pour un signe. Maintenant, vous voyez aujourd'hui, le signe que cette génération méchante dans laquelle nous vivons verra sera le signe de la résurrection. Il n'a pas dit qu'il y en aurait un. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas, la résurrection, et dans cette génération méchante, adultère et pervertie dans laquelle nous vivons, c'est dans le monde entier. Ne pensez pas que vous les avez tous à New York. Vous ne les avez pas tous. Ils sont partout dans le monde. Ne pensez pas que l'Amérique soit la seule qui en ait. Ils sont partout dans le monde. C'est vrai. Une génération adultère. Voyez-vous, ce sont eux qui recevront le signe de la résurrection. De tous ces jours où nous avons eu Bouddha, Sikh, Jains et toutes sortes de religions, des milliers de ces formations dans le monde entier, chacune d'entre elles peut vous amener à la tombe de leur fondateur. Mais le christianisme a une tombe vide, voyez? Non seulement cela, mais vous ne pouvez pas dire à ces gens, disons, « Il vit dans mon cœur ». Ils vous ramèneront tout droit à sa parole. Ils le feront certainement. Ils vous ramèneront tout droit à sa parole. Oui, vous ne pouvez pas produire de la psychologie pour le païen. Voyez, parce que son Dieu vit aussi dans son cœur. J'ai vu des Mohammedans étendus dans la rue et disant « Allah, Allah » jusqu'à ce qu'ils deviennent si frénétiques qu'ils prenaient un morceau d'éclat et de le font passer à travers leurs doigts sans jamais le sentir. J'ai vu un homme à Zurich en Suisse prendre une épée et la pousser directement dans ses poumons comme ça, traverser d'un bord et de l'autre, et qu'il fait montrer un médecin sur l'estrade pour verser de l'eau à travers où l'épée passait jusqu'à l'autre bord, la retirer, aucune goutte de sang, voyez, prendre une lance et la planter dans leur menton jusqu'à leur nez. Maintenant, vous êtes mieux de savoir de quoi vous parlez. Lorsque vous parlez de Dieu à un homme comme ça, vous êtes mieux de le savoir. Juste de la psychologie ne fonctionnera pas. Il va vous le laisser savoir tout de suite. Vous devez savoir de quoi vous parlez. Mais rappelez-vous, le Dieu qui était avec Élie sur le mont Carmel, il est encore Dieu aujourd'hui, toujours le même. Et je l'ai vu devant littéralement des centaines de milliers de personnes le faire. Voyez, les sorciers par vingtaines sont là à vous défier. Regardez ce que le Saint-Esprit fait. Voyez, vous avez lu le livre et vous l'avez savé. Les déclarations signées de ce que Dieu a fait. Il est encore Dieu. Il est obligé à sa parole. Maintenant, il n'est pas obligé à vos désirs. Il est obligé à sa propre parole. Voyez, maintenant, nous voyons ici ces païens, la manière qu'ils agissaient. Dieu, dans ses derniers jours, a promis qu'il montrerait à cette génération perverse et adultère les signes de sa résurrection, qu'il n'est pas mort, il est vivant, il veille sur chaque parole, il la vit au travers de vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, a dit Jésus, mais vous, vous me verrez, voyez, s'adressant aux croyants, car je est un pronom personnel, je serai avec vous, même en vous. Jusqu'à la fin du monde, la consommation et les œuvres, Jean 14, 12. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Même chose. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, 8. Maintenant, l'Église est montée à travers le décompte des âges de l'Église. Commençant par le premier, l'âge de l'Église d'Éphèse dans la Bible. Et si le Seigneur le veut, avant de partir, je veux prêcher sur un petit sujet appelé le compte à rebours et voir comment nous sommes venus, comment nous avons progressé. Bon, remarquez maintenant, cet âge de l'Église d'Éphèse et cet âge de l'Église, avant qu'ils entrent dans l'âge des ténèbres pour 1000 ans. Et alors, Luther était le premier réformateur. Il est sorti avec la justification. Ensuite, Wesley est venu avec la sanctification. Puis les pentecôtistes avec le baptême du Saint-Esprit. L'Église diminuait constamment vers la minorité avec de plus grandes puissances. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et maintenant, nous avons quitté l'âge pentecôtiste. Maintenant, nous arrivons, ou comme dans la pyramide, non pas les doctrines de la pyramide maintenant, mais je veux dire comme la pyramide, la pierre de fait. Quand elle vient s'ajuster, elle doit être affinée. Et se doit d'y avoir un ministère dans l'Église, de la véritable Église du Dieu vivant, sur qui la pierre de fait viendra, Christ, ou le ministère de Christ, et Christ se joindront parfaitement ensemble. Ensuite, cela ramènera les racheter pour prendre toute la maison de Dieu. Dans la gloire, les méthodistes, baptistes et presbytériens qui, à travers les âges de la réforme, sont sortis et ont donné leur vie à travers les persécutions de ces choses pour le royaume de Dieu. Mais cette pierre s'en vient. Oui, monsieur, c'est certain qu'elle s'en vient. Dieu l'enverra et il sera adapté à tous les bâtiments ensemble. Voyez, maintenant, nous voyons ces signes comme nous voyons le ministère de Christ qui commence à se restreindre maintenant au ministère entier de Christ dans la plénitude du Saint-Esprit. Sous Luther, c'était le même Saint-Esprit, la justification, puis la sanctification sous Wesley, le message puis le baptême du Saint-Esprit, ce qui est en fait trois par trois étapes de la grâce, mais trois étapes, je pourrais dire, regardez comme ceci, quand le bébé est né, il y a trois choses qui constituent sa naissance. La première chose est lors d'une naissance normale, écoutez bien, vous les adultes maintenant, les jeunes enfants ne pourront pas saisir, mais voyons cela. La première chose dans une naissance normale est l'eau, puis le sang, puis la vie, voyez. Alors, c'est la même chose qui constitue la nouvelle naissance, l'eau, le sang, l'esprit, les éléments qui sont venus sur son corps, sont ce qui forme son corps. Vous voyez, cela vient de son corps, c'est le matériel requis pour former son épouse. Parce que l'épouse d'Adam a été détachée de son corps. L'épouse de Christ a été détachée du corps. Et quand Christ est mort, il a eu trois éléments qui venaient de son corps. L'eau, le sang, l'esprit. La justification par la foi, l'eau, la sanctification par le sang, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, cette dernière grande étape doit arriver à la perfection. Le Saint-Esprit doit vivre dans cette Église si parfaitement que la tête et le corps s'uniront ensemble. Voyez? Voyez? C'est le corps. Il est la tête du corps. Maintenant, nous voyons qu'il a promis dans ces derniers jours que cela allait arriver. Nous le voyons. Maintenant, Jonas, beaucoup de gens, je l'ai dit, disent que Jonas, eh bien, cet homme était un incroyant. Non, il ne l'était pas. Il était censé aller à Ninive. C'est exactement vrai, parce que c'était une grande ville remplie de péchés, peut-être d'un demi-million de personnes, et ils étaient très, très méchants. C'était une grande ville commerciale. Leur occupation était principalement la pêche, de ce que j'ai compris. Et ils l'étaient. Ils avaient été envoyés là, mais ils étaient montés sur le mauvais navire. Il est allé à Tarsis. Beaucoup de gens essaient de dire qu'ils ne voulaient pas faire cela. Je crois que tout était planifié par Dieu. Je lisais une petite histoire, cela pourrait témoigner à ce moment-ci pour justifier Jonas, en quelque sorte, pour entrer dans ce que je veux dire. Bon, Jonas, quand il a pris le mauvais navire, la première chose qu'on a su, il allait dans la mauvaise direction. Ils ont eu des problèmes. Les vents ont commencé à souffler, les vagues ont commencé à se déferler. Tout le monde pensait que le navire allait couler. Alors Jonas s'est endormi. Ils ont dit, « Lève-toi, le dormeur, et fais appel à ton Dieu. » Et Jonas a avoué qu'il avait mal agi. Il a dit, « Maintenant, liez mes pieds et mes mains, jetez-moi par-dessus bord. » Puis la tempête s'arrêtera, et c'est ce qu'ils ont fait. Et Dieu avait préparé un grand poisson. Maintenant, j'ai entendu un scientifique ici, il n'y a pas longtemps, à Louisville, au Kentucky, où j'habitais, à Jeffersonville, juste en face. Ils avaient les ossements d'une baleine posés sur une plateforme de camion-remorque. Et cet homme expliquait, ce savant, il disait combien de dents ils avaient, et oh, je ne sais pas. Et puis, finalement, il a dit, vous savez, là, l'histoire de la Bible, il a dit que ce n'est pas vrai. Il a dit, la Bible, ça en était trop pour moi. Alors, je me suis rapproché un peu, je pensais, je vais voir ce qu'il va dire. Il a dit l'histoire biblique de la baleine qui a avalé Jonas. Il a dit, « Je veux que vous regardiez comment un homme pourrait-il passer par sa gorge alors que vous ne vous pouvez même pas faire passer une balle de baseball dans sa gorge. » Ainsi, il a dit, « C'est faux. Je ne pouvais pas le supporter et laisser cet infidèle dire des choses pareilles. » J'ai dit, « Je vous demande pardon, monsieur. Avez-vous déjà lu la Bible? » Il a dit, « Certainement. » Eh bien, j'ai dit, « Puis vous faites une déclaration pareille. Dieu n'a jamais dit que c'était une baleine. Dieu a dit que c'était un poisson. » Il a dit, « Eh bien, ça devrait être une baleine. » J'ai dit, « Si ça, cela, disons que c'était une baleine, c'en était une spécialement préparée, car Dieu avait préparé ce poisson pour lui. Elle était spéciale. Il aurait pu en faire une dans laquelle un wagon de marchandises entier puisse y rouler. Il est Dieu, voyez, ainsi c'est vrai. Nous ne voulons pas être... nous arrêter à croire ces choses, ces histoires de la Bible. Dieu a préparé ce poisson pour Jonas. C'était un poisson spécial. Ainsi, il a avalé Jonas et maintenant, il en était dans le ventre de la baleine et ses mains étaient attachées derrière lui, ses pieds attachés. Bon, vous voyez, imaginez la condition dans laquelle se trouvait cet homme et toute la façon, la baleine où était comme tout un autre poisson. Peut-être, elle se promenait dans l'eau jusqu'à ce que se trouve sa nourriture, puis elle descendait tout au fond de la mer. Maintenant, quand vous nourrissez vos petits poissons rouges et surveillez-le, il remplit son petit ventre et descend au fond de la mer et étale ses petites nageoires et là, il se repose, voyez, parce qu'il a trouvé sa nourriture. Eh bien, quand ce poisson a trouvé le prophète, il l'avait avalé. Eh bien, alors, il a dû descendre au fond de la mer. Maintenant, je ne sais pas s'il l'a fait, mais je le dis qu'il a pu le faire. Et maintenant, voici cet homme. Maintenant, nous sommes toujours, c'est dommage, mais nous essayons toujours de penser et de montrer, ou plutôt Satan nous montrer nos symptômes. Eh bien, tu vois, tu ne vas pas mieux qu'hier. Tu vois, tu n'es pas mieux. Ne regarde pas les symptômes. Si quelqu'un pouvait avoir des symptômes, c'était bien Jonas, voyez? Voyez, partout où il regardait, c'était le ventre de la baleine, voyez? Mais vous, vous savez ce qu'il a dit? Ce sont des vanités mensongères. Il n'a jamais dit, je vais regarder ceci. Il a dit, une fois de plus, je regarderai vers ton Saint-Temple. Car il savait que lorsque Salomon avait prié et dédicacé ce temple, il avait dit, si ton peuple est en difficulté n'importe où et regarde vers cet endroit saint et prie, alors j'étendrai du ciel. Il avait confiance en la prière de Salomon, un homme terrestre comme vous et moi, qui, après un certain temps, a même rétrogradé. Les femmes l'ont éloigné de Dieu. Mais Dieu avait entendu sa prière et il pouvait avoir la foi dans telle circonstance. Et combien plus de foi devrions-nous avoir quand nous n'avons pas à regarder vers un temple fait de main d'homme, mais un ciel lui-même où le Fils de Dieu est assis à la droite de sa majesté avec son propre sang, toujours vivant pour intercéder. Et aucun de nous n'a ce genre de symptômes. Nous voyons des personnes être guéries dans la présence de Dieu tout le temps. Nous ne devrions jamais regarder les symptômes. Ce sont des vanités mensongères. Regardez à Dieu. Il est celui qui a fait la promesse. Maintenant, voyons que, quoi que ce soit passé, Dieu a pourvu de l'oxygène aux prophètes. Je ne sais pas, mais il a vécu pendant 3 jours et 3 nuits. Selon la Bible. Et je ne sais pas à quelle distance se trouvait Tarsis, ni combien c'était loin de Ninive, combien éloignés dans la mer ils étaient, mais Jonas est resté vivant, selon l'Écriture, pendant 3 jours et 3 nuits. Il l'a appelé, vous dites, « Oh, c'est impossible, qu'en est-il d'avoir appelé Lazare après qu'il était mort depuis 4 jours, voyez? Il nous appellera un jour, même si nous sommes morts depuis 2000 ans. Cela n'a fait aucune différence, voyez? Cela arrive quand même, voyez? Il est Dieu. » Or, nous le voyons maintenant. Voici qu'il arrive à Ninive. La baleine arrive dans l'eau comme un taxi pour lui, une promenade en taxi au fond de la mer allant jusqu'à Ninive, et il devait être aux environs de midi. Bon, maintenant, ces gens étaient des pêcheurs. Ils étaient en train de retirer leurs filets, et ainsi de suite, des pêcheurs de métier. Ils étaient païens, ils adoraient des idoles, et l'un de leurs dieux, comme les Indiens avaient ici en Amérique, le grizzly était un dieu, Ovegus, qui était un dieu vénéré par les Indiens païens. Avant d'être convertis au christianisme, ils avaient un dieu, le dieu du pouvoir. Et à Ninive, on m'a dit que la baleine était le dieu de la mer, parce qu'elle était, qu'elle est la maître de la mer, elle peut avaler n'importe quoi. Et vers midi, voici leur dieu qui sort de la mer, ouvre la bouche, et le prophète qui en sort sur le rivage. Pas étonnant qu'ils aient cru, voyez? Voyez? Et c'est sûr qu'ils ont cru, parce que le prophète qui apportait le message sortait de la bouche de leur dieu. Répentez-vous ou cette ville va périr, voyez? Il n'était donc pas hors de la volonté du Seigneur, il faisait simplement comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est juste. Ils sont appelés selon son dessein. Jésus s'est référé à lui. Encore un peu de plus avant de passer à la ligne de prière, il a également fait référence à Salomon. Maintenant, quand Dieu envoie un don sur la terre et que les gens le respectent, c'est toujours un âge d'or pour ce peuple. Mais quand il le rejette, c'est toujours un chaos pour ce peuple. Et il fait cela dans tous les âges. Regardez simplement, regardez quand ils ont rejeté Jésus, qu'ils ont rejeté les prophètes et les autres et qui arrivaient. Mais du temps de Salomon, ils croyaient tous. Salomon avait un don de discernement. Dieu l'avait donné à Salomon, et les gens l'ont cru, et tous d'un même accord, ils étaient, on l'appelait à l'époque du millénium, parce que pour la race hébraïque, à cette époque, c'était l'âge d'or. L'âge de Salomon, pas de guerre ou rien. Il l'a fait prospérer. Ils ont construit le temple et toutes ces grandes choses qu'ils ont faites envers l'âge de Salomon parce qu'il était un type, le fils de David. Bon, nous voyons qu'à cette époque, quand ils ont construit le temple et tout, tout le monde respectait ce don que Dieu avait envoyé. Ils ont même fait de lui leur roi. Et sa renommée s'est répandue partout. Et je vous le dis, les Américains, si seulement nous respections le don que Dieu nous a envoyé, le Saint-Esprit, nous n'aurions plus besoin de nous soucier des astronautes russes et des bombes atomiques Et ces choses, eh bien, c'est notre sécurité, c'est Christ. Voyez, il est notre sécurité. Mais le problème, c'est qu'il nous envoie les dons et nous en rions au possible, comme ils l'ont fait. C'est pour ça que nous devons être jugés. Nous avons, cela doit frapper, c'est juste. Dieu ne fait pas exception de personne. Si Dieu laissait ce monde s'en tirer, ce New York, cette Amérique, ce monde, s'en tirer avec ce qu'il fait maintenant, sans amener un jugement sur lui, il serait dans l'obligation, en tant que Dieu juste, de ressusciter Sodome et Gomorre et de s'excuser de les avoir brûlés, car il les a brûlés pour la même raison que ce que nous faisons maintenant même, voyez. Il a promis qu'il en serait ainsi. Or, nous voyons maintenant que du temps de Salomon, pouvez-vous imaginer tout parler de Dieu? Oh, le grand don de discernement de Salomon, c'était un don qu'il pouvait discerner. Et tout le monde en parlait fièrement. Il n'y avait pas de confusion de dire, « Ah, non, 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 tous y croyaient. » Et sa renommée s'est répandue dans toutes les nations. Les nations craignaient Israël, non pas parce qu'ils avaient une meilleure armée, mais parce que Dieu était avec eux. C'est ce qui amène la crainte. Dieu était avec eux. Oh, comme cela devait être avec nous, qui professent être une nation chrétienne. C'est dommage que les dénominations et ces choses nous aient tordus à ce point, car nous sommes tous déformés aujourd'hui. Et personne ne sait à peine ce qu'il faut croire. Et regardez. Alors, la renommée de Salomon s'est rendue jusqu'à Séba. La reine en a entendu parler. Elle était une païenne. Et la seule façon qu'ils avaient alors, ils n'avaient pas la révélation et les choses que nous avons aujourd'hui ou la presse. La seule façon qu'ils avaient d'envoyer des messages était de boucher du bouche à oreille. Et chaque fois qu'une caravane entrait, sans doute que la petite reine sortait et disait, « Êtes-vous passé par la Palestine pour venir ici? » Oui. Est-ce que c'est comme ils le disent? « Oh, vous devriez voir ça. Il n'y a rien comme ça. Ces gens ont un réveil là-bas. C'est une affaire nationale. Oh, ils ont un réveil merveilleux. Et leur Dieu est à loin leur roi. Il est un don de discernement. Et vous n'avez jamais rien vu de tel. Il n'y a rien qui puisse dépasser cette sagesse. Il peut tout dire. C'est au-delà de la sagesse d'un homme. C'est un discernement qui vient de Dieu. Ils ont tout, eh bien, ils ont écouté. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend la parole de Dieu, non pas de ce qu'on entend que nous sommes méthodistes, baptistes ou pentecôtistes, mais de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Voyez, la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'elle a entendu la faim s'est installée, eh bien alors, elle a décidé, après avoir entendu tout cela, avant de dire quoi que ce soit à ce propos, qu'elle irait se rendre compte par elle-même avant de passer ses commentaires. On ne serait pas bien si nous le faisons comme tout cela, vous voyez. Bien qu'il ne fait pas de doute qu'elle s'est procuré beaucoup de rouleaux, la Bible de ses prophètes et de ce qu'ils avaient prophétisé pour voir la nature de leur Dieu Jéhovah. Maintenant, cette petite reine avait beaucoup de choses à affronter avant d'aller là-bas. La première chose était une païenne. Elle devait aller chez son prêtre pour demander la permission parce qu'il était une reine et membre de l'Église. Je peux donc l'imaginer aller voir le prêtre et dire, « Père, puis-je monter en Israël pour voir la sagesse de ce grand homme Salomon sur qui leur Dieu a accordé cette grande sagesse? » Je peux l'entendre dire, « Mon enfant, je n'aurais jamais pensé une telle chose de ta part. Notre dénomination ne compare pas avec ce réveil. » Mais vous savez comment ce serait aujourd'hui? Je passe le sujet maintenant du sublime au ridicule, bien sûr. Mais maintenant, ce serait le même esprit aujourd'hui qui le dirait. Vous voyez, le même esprit l'amènerait, le dirait de cette façon. Alors, tu ne dois pas faire ça, tu vois, parce que après tout, ces gens sont des fanatiques. Ils croient en toutes sortes de signes et tout. Mais bon, tu vois, tout le monde sait que c'est un tas de fanatiques, comme les mères qui se déchaînent et tout ce genre de choses qu'ils ont eues. Il n'y a rien de vrai, tu vois, c'est juste un conte qui a été raconté ou une chanson qui a été chantée ou quelque chose. Il n'y a rien là-dedans. Mais vous savez, quand la foi véritable frappe un cœur et commence à avoir faim, ils veulent voir. Il n'y a personne qui vive qui n'aimerait pas recevoir. Regardez de l'autre côté du temps, du rideau. D'où suis-je venu? Qui suis-je? Et où vais-je? De tous les bons livres qui ont été lus, de grandes collections maîtresses qui ont été faites, il n'y a qu'un seul livre qui révèle qui vous êtes et d'où vous venez et où vous allez. C'est ça. C'est ça. Et il nous permet également de regarder de l'autre côté du rideau pour le voir. Or, quand ils ont vu cela se produire, elle en a entendu parler, puis elle a dit, « Je vais y aller de toute façon. » Donc, peu importe ce que dit l'évêque ou quoi qu'il en soit, elle va y aller de toute façon, déterminée, parce qu'elle veut voir quelque chose de réel. Quelque chose. Bon, alors le prêtre peut lui avoir dit, « Maintenant, regarde, ma fille, tu es une reine et tu ne dois pas t'associer à des gens comme ça. Quoi qu'il en soit, je suis un être humain qui doit aussi mourir. Eh bien, maintenant, il se passerait une telle chose, ce serait ici, même dans notre église. Certainement que cet esprit n'est pas mort non plus, voyez. Cela doit venir dans la nôtre, ou ce n'est pas vrai. Eh bien, elle a pu dire, je suis ici depuis ma dédicace, toute petite fille. J'ai vu toutes ces idoles et ces statues, et ainsi de suite, et vous avez dit que ce sont des dieux. Ma grand-mère venait ici, mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-mère. Et aucun d'eux n'a montré le moindre signe de vie. Ils disent que cela est la vie. Il devait y avoir un peu plus de gens qui ont ce type d'idée comme celle que la reine avait ici, même à New York et partout dans le monde. Et je veux le voir moi-même et je ne vois pas ces idoles. Je vous entends lire toutes sortes de livres, des livres de prière, etc. Qu'est-ce que c'est? Je ne vois jamais rien de qui bouge ou qui soit vivant. Tout est mort et la théologie ou quelque chose. Mon cœur a faim de voir. Y a-t-il un Dieu? Où est-il? Oh, puisse le monde avoir faim de ça! Où est-il? S'il a déjà été Dieu, il se doit d'être encore Dieu. Sinon, il est mort. Voyez? Il est le même, la Bible dit. Hier, aujourd'hui, pour toujours. Maintenant, remarquez, son cœur a commencé à avoir faim, là. Alors, elle a eu une bonne idée. Elle a dit, « Je vais prendre un bon montant d'argent et de l'encens et tout, et de la myrrhe, et cela est vrai, je vais la soutenir. Si ce n'est pas vrai, je la laisserai tomber. » Elle pourrait certainement enseigner les pentecôtistes, soutenir quelque chose que vous appelez un exalté et tout, voyez, et vous le supportez quand même, voyez. Oh là là! Et le don de sagesse est censé être dans l'Église. Maintenant, remarquez, c'est au pasteur de le dire maintenant, remarquez. Alors, elle a dit ceci, « Je vais amener mes présents. Et si ce n'est pas la vérité, je peux les ramener. » C'est bon. Maintenant, la petite dame s'apprêtait à partir. Elle a pris quelques eunuques, tout cet argent et ses servantes. Maintenant, pensez à la distance qu'elle a dû parcourir pour voir si cela était juste ou non. Voyez, mesurez-le sur votre carte, de la Palestine à Séba. C'est exactement 90 jours, 3 mois sur le dos d'un chameau. Elle a eu des difficultés. Elle ne pouvait y aller dans une Cadillac climatisée comme nous. Mais elle a parcouru tout le chemin à l'extrémité de la civilisation, le monde à cette époque-là, pour entendre la sagesse de Salomon. Et les gens vivent de l'autre côté de la rue et ne viendront pas pour entendre quelque chose de plus grand. Pas étonnant que Jésus ait dit, elle se lèvera dans les derniers jours et condamnera cette génération. Elle avait des obstacles sur sa route. Rappelez-vous, le fils d'Ismaël, ses cavaliers errants, c'était des voleurs dans le désert, comme il aurait été facile pour cette grande troupe d'Ismaélites d'attaquer cette petite reine et de tuer cette demi-douzaine d'eunuques et de s'emparer de tous leurs trésors. Mais d'une manière ou d'une autre, que lorsque le cœur a faim de Dieu, les problèmes ne sont plus apparents. Votre idée est faite, peu importe ce que quiconque dit de vous. Ils peuvent vous traiter de tout ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent essayer de mettre toutes les pierres d'achoppement possibles sur votre chemin. Si vous avez soif de Dieu, vous allez le trouver quelque part, c'est tout, voyez. Rien ne vous arrêtera, votre mari ne vous arrêtera pas, votre femme ne vous arrêtera pas, l'Église ne vous arrêtera pas, votre pasteur ne vous arrêtera pas. Rien ne peut garder un saint loin de son Dieu s'il veut vraiment le voir, rien. Elle n'a même jamais pensé à ça. Vous n'y penserez pas non plus, que celui-ci va dire, ce que ma mère va dire, ce que mon papa va dire, et ce que votre mari va dire lorsque vous découvrez que Jésus-Christ est une réalité, et vous entendez qu'il est vivant, rien ne pourra vous arrêter quand cette fin, cette semence qui a été prédestinée avant la fondation du monde, quand la lumière frappe cela, elle vient à la vitesse, à la vie aussitôt. Cette femme était ce genre de semence, bien qu'étant une étrangère, une païenne. Maintenant, souvenez-vous, elle devait probablement voyager de nuit. Il faisait si chaud dans ce désert du Sahara et Elle devait voyager la nuit, peut-être en lisant les rouleaux. Maintenant, voyons ce que le prophète a dit ici sur Dieu. Je révélerai les secrets du cœur, et s'il y a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, moi, le Seigneur, je me ferai connaître à lui, je lui parlerai par des visions. Et si ce qu'il dit arrive, écoutez-le, je vais voir. Quand je serai là, c'est ce que Dieu est là, je vais voir. Remarquez maintenant, après un certain temps, elle est finalement arrivée au réveil qui se déroulait. C'était un réveil, elle est donc arrivée. Maintenant, elle ne venait pas seulement pour dire, « Je vais entrer et m'asseoir quelques minutes, et si je l'entends dire un mot sur lequel mon credo n'est pas d'accord, je m'en vais. » Non, elle sera là, au jugement, pour juger ce genre-là, voyez. Elle est venue pour rester jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement convaincue. Si nous pouvions seulement faire ça, être respectueux, nous asseoir et dire maintenant, c'est quelque chose qui semble être juste, je ne sais pas, je ne vais pas critiquer, je vais juste rester assis tranquille et je vais regarder, et puis je vais le comparer avec les Écritures et voir si c'est juste. Vous devez de ça à vous-même. Maintenant, elle est venue des extrémités de la terre. Elle était probablement sortie dans les cours du temple et elle a installé cette tente et tout le reste. Et peut-être, maintenant, je vais en faire une petite histoire pour les jeunes et ainsi de suite. Peut-être que ce matin-là, lorsque l'église a ouvert ses portes, la trompette a retenti. Les prêtres faisaient retentir leurs trompettes et jouaient de la musique, et ainsi de suite, et tous les enfants commençaient à entrer pour se rassembler, et peut-être qu'elle s'est prise un siège tout au fond en arrière. Habituellement, c'est comme ça que ça se passe, et elle s'est assise au fond en arrière, et elle a regardé quand le pasteur Salomon est entré, et ils l'ont présenté, et il a parlé au peuple, et a lu les Écritures, ils ont prié, et puis la première cas s'est présentée. Maintenant, elle a pensé, je vais juste voir si c'est vraiment du discernement, et quand elle a vu ce discernement, j'imagine qu'à la réunion suivante, elle s'est avancée de quelques sièges. Peut-être que celle-ci, si cela semble sacrilège, pardonnez-moi, peut-être que sa carte de prière n'a pas été appelée ce soir-là. Vous voyez, elle a dû attendre un peu. J'essaie de montrer quelque chose aux gens, vous comprenez, vous voyez? Et peut-être que ce n'était pas cela. Mais finalement, elle a regardé ça cas après cas et elle a été convaincue. Mais elle a attendu que son tour arrive. C'est ce qu'elle voulait. Et la Bible a dit qu'elle a été amenée en présence de Salomon. Il répondit à toutes ses questions. Il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. Dieu lui a révélé à Salomon tout ce dont elle avait besoin pour sa vie. Et quand il a fait cela, c'était à elle que c'était arrivé là. Elle s'est levée et elle a dit, « Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne l'a fait connaître. » Elle a dit, « Heureux est l'homme qui s'assoit journellement et voit ce grand don à l'œuvre. Heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entend ta sagesse. » Elle a accepté Dieu. Elle avait vu quelque chose de réel. Son cœur s'est mis à frémir. Elle a trouvé quelque chose qui était authentique. Quelque chose qui n'était pas un credo mort, quelque chose qui n'était pas une idole, c'était un Dieu vivant. Maintenant, pas étonnant que Jésus ait dit, « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Et même au jour du Seigneur Jésus, l'Emmanuel, Dieu fait chair, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il était la parole vivante. Et en ce jour-là, il disait même à ceux qui critiquaient un ministère comme le sien que cela leur était pardonné. Il a dit que quand le Saint-Esprit sera venu, vous avez eu 2000 ans de plus d'études de la Bible qu'eux. 2000 ans de plus avec le Saint-Esprit qui agit sur la terre. Maintenant, si elle condamne cette génération-là, qu'est-ce qu'elle fera avec cette génération-ci? Car un plus grand que Salomon est ici. La petite dame a vu quelque chose de réel. J'ai déjà dit cette petite chose, mais je crois qu'elle vaut la peine d'être redite maintenant, avant que j'appelle la ligne de prière. J'aime chasser. C'est simplement une seconde nature en moi. J'aime ça. Mais conversion n'a jamais enlevé cela de moi. Et quand j'aime aller dans la campagne, j'avais l'habitude de chasser dans le nord ici. Et je chassais ici dans les Adirondacks il y a des années. Et j'allais là-bas et je gravissais les montagnes, regardais le soleil se lever et se coucher. Et je pleurais. Je restais là-bas pendant des semaines et écoutais Dieu parler par la nature. C'est là que ma première Bible était la nature, de voir comment une pièce, une petite semence pouvait tomber dans la terre et geler, et ça cède profond, et la semence éclate, la pulpe s'échappe, et tous les signes de vie sont partis. Est-ce que vous pouvez voir? Mais le printemps suivant, elle revise à nouveau. Voyez, Dieu a pourvu d'un moyen pour elle. Il a pourvu d'un moyen pour que la semence revive. Et je disais, il existe un moyen pour moi de revivre, c'est vrai. Donc, c'était ma première Bible. Je chassais avec un petit Yankee ici. C'était un bon chasseur, mais il avait un cœur très cruel. Il était un brave homme, je suppose. Et un bon compagnon de chasse. Et vous n'aviez jamais à vous préoccuper de le retrouver. Il savait où il se trouvait. Et nous chassions ensemble. Et il avait vraiment un cœur cruel. Et je lui avais dit plusieurs fois, je disais, Pourquoi es-tu si cruel? Et le type, pas pour me moquer de lui, ni rien, mais il avait les yeux comme ceux d'un lézard. Et il me regardait et il disait, « Oh, voyons, prédicateur, reprends tes sens, Billy. Tu ne pourras jamais être chasseur et un prédicateur en même temps. » Et il disait, « Tu es trop poule mouillée. » Il avait l'habitude de tuer des fonds juste pour me contrarier. Les petits, je déteste les tuer. Alors, il disait, c'est bon, si la loi dit de tuer un faon, c'est très bien, mais de leur tuer juste pour le plaisir. Abraham a tué un veau et Dieu l'a mangé. Et c'est vrai, voyez, donc ce n'est pas la taille de l'animal, mais rien que pour tuer, pour être méchant, c'est un meurtrier pour moi. Je pense qu'un petit faon devrait vivre. Si vous en avez besoin, eh bien, là, la loi dit que vous pouvez le prendre. Eh bien, d'accord, vous savez que j'étais agent de protection de la nature pendant 7 ans. Alors, c'était pendant que je servais l'Église baptiste. Alors, quand ce type, il était si cruel à ce sujet, une certaine année, je suis allé là-bas et c'était fait un petit sifflet. Maintenant, je ne jette pas le discrédit sur les baptistes, voyez, non. Voyez, je ne voulais pas le dire de ce sens. Je n'étais pas sur le champ. Maintenant, je voulais travailler. J'ai toujours travaillé jusqu'à ce que je doive aller faire ce travail d'évangélisation. Et pourtant, je n'ai jamais prélevé une offrande de ma vie. Voyez, c'est vrai. Mais je n'ai jamais demandé un sou à personne. Je veux que ma vie en vienne là où je devrais répondre quelque chose très bientôt, comme Samuel l'a fait. Il a dit, est-ce que je vous ai déjà dit quelque chose au nom du Seigneur Jésus qui ne s'est pas accompli? Vous ai-je déjà pris de l'argent, votre nécessaire, voyez-vous? Voyez, c'est vrai, ils ont dit non, tu n'as pas fait ça. Mais ils voulaient leur roi de toute façon, de sorte que c'était probablement la façon que ça finira. Comme ça, ça l'est habituellement. Mais cet homme, je l'aimais. Et un autre homme, je suis allé là-bas, il avait fabriqué un petit sifflet dans lequel il pouvait souffler, qui sonnait exactement comme le cri d'un petit pharaon. Comme le petit bébé cerf qui pleure pour voir sa mère. Alors là, il a dit, je veux te montrer quelque chose, Billy. Il avait ce petit sifflet qu'il avait utilisé. J'ai dit, tu ne ferais pas ça. Il a dit, oh, ça y est, tu t'en sortiras jamais, n'est-ce pas? Et j'ai dit, non, monsieur, pas pour être comme ça. Alors nous sommes allés à la chasse et c'était à la fin de la saison et je devais venir et tous les chasseurs ici se connaissaient, ces petits cerfs de Virginie là-bas. Houdini n'est pas de taille avec eux pour disparaître quand ils ont peur. On leur avait tiré dessus. Il y avait des petits bancs de neige sur le sol, ce qu'on appelle des petits amas dans le sud d'environ 4 ou 5 pouces, juste assez pour voir leurs traces. Et nous les avons suivis environ une demi-journée. Et je pensais que nous transportions un petit thermos plein de chocolat chaud et ça vous donne de l'énergie et un sandwich. Habituellement, nous nous assoyons et quand nous étions au sommet de la montagne, il prenait un petit raccourci d'un côté, descendais de l'autre. Je suis revenu et je suis arrivé au camp ce soir-là et je pensais qu'il avait environ 11 heures ou à peu près et je pensais qu'il allait s'asseoir sur un petit banc de neige, là, un petit endroit, un éclairci d'environ 2 fois la taille de cette pièce. Et il s'est assis là, je pensais que nous allions manger notre lunch. Et j'ai donc commencé à le sortir. Il a sorti ce petit sifflet, il allait souffler dedans. Les cerfs sont très effrayés, comme ils vont rester sous des tas de buissons et tout. Durant la saison de chasse, ils doivent le faire pour survivre. Et il a soufflé dans ce petit sifflet. Et quand il l'a fait, juste de l'autre côté du petit éclairci, une grande biche s'est levée. Maintenant, la biche est la mère du cerf et elle s'est levée et je l'ai regardée. Elle était belle avec ses grandes oreilles, ses grands yeux bruns. Elle cherchait ce bébé. Puis il m'a regardé comme ça. J'ai pensé, tu ne feras pas ça, Bert. Sûrement que tu ne feras pas. Alors, il a glissé la balle dans son fusil. C'était un coup sûr. Et je l'ai vu. Il a soufflé de nouveau. Et la mère du cerf s'est avancée directement dans l'éclaircie. À 11 heures de l'avant-midi, maintenant, c'est inhabituel. Ils ne font pas ça. Non, surtout durant la saison de chasse, à cette heure-là, non. En plus, elle s'est avancée. Là, pourquoi? Elle était une mère. Elle avait la nature d'une mère. Dans son cœur, elle était une mère. Son bébé était en difficulté. Il l'appelait et elle cherchait le bébé. J'ai pensé, tu n'es certainement pas cruel au point de tuer cette mère et à la recherche de son bébé. Il m'a regardé comme ça avec ses yeux de lézard. Il a pris cette arme et s'est miré. J'ai pensé, oh là, sûrement qu'il ne fera pas ça. Et c'est bravement qu'il s'est avancé là debout là. Et quand la culasse du fusil est descendue pour insérer la balle dans la chambre, quand la culasse est descendue, la biche a entendu la culasse. Elle s'est retournée, elle a vu le chasseur, elle s'était levée comme ceci pour le tirer. Oh là là, cette croix du télescope dirigée droit sur son cœur, loyal. J'ai pensé, cette grosse balle de 30-06 de 180 grains va lui éclater le cœur. J'ai pensé, comment peux-tu faire ça? Une mère qui cherche et l'a trompé, l'appeler comme si c'était son bébé, le faire s'avancer là, puis tirer dessus et un cœur battant aussi loyal que le sien. Comment peux-tu le faire? Comment peux-tu être si cruel? Et je l'ai vu s'épauler et la biche, au lieu de s'enfuir comme elle l'aurait fait ordinairement, elle restait immobile. Elle n'avait pas peur de mourir. Son bébé était en difficulté. Maintenant, regardez, elle ne fabriquait rien. Elle ne faisait pas semblant. C'était la mort, voyez, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. C'était une mère. C'était une nature, une mère. Je ne pouvais pas regarder le geste se faire. J'ai tourné la tête. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, Jésus, ne la laisse pas faire ça. Ne le laisse pas faire ça. Comment peut-il le faire? C'est une pauvre mère qui se tient là. Il va lui faire éclater le cœur. Eh bien, j'ai attendu et le coup de fusil n'est jamais venu. Et je me suis retourné pour regarder. Le canon balançait comme ceci. Il ne pouvait plus le tenir. Et il s'est retourné à me regarder. De ses yeux bridés sortaient de grosses larmes qui coulaient sur ses joues. Il a saisi le fusil. Il l'a jeté sur le sol. Et il m'a saisi par la jambe de mon pantalon sur cet amas de neige. Il a dit, Billy, j'en ai assez. J'en ai assez. Conduis-moi à ce Jésus dont tu parles. Qu'est-ce que c'était? Il avait vu quelque chose de réel. Il avait vu quelque chose qui n'est pas fabriqué. Oh, si nous pouvions seulement être aussi chrétiens que cette bûche était une main. Dieu, je te prie maintenant de faire de moi autant un chrétien que cette bûche était une mère. Que je sois sans crainte, je veux t'aimer comme cette biche aime la maman qui aime son enfant. Levez la main. Dites, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, que j'ai ce genre d'amour. Notre Père Céleste, il y en a beaucoup qui sont assis ici. Oui, des centaines ont levé la main, signifiant qu'ils aimeraient avoir cette expérience. La raison pour laquelle cette biche pouvait monter cette maternité, ce courage, c'est parce qu'elle était une mère. Sa nature était celle d'une mère. Oh Dieu, fais de nous des chrétiens. De la nature de chrétien, Seigneur. Pas seulement quelque chose de fabriqué pour dire, je fais partie de ceci ou de cela, mais fais de nous des chrétiens dans nos cœurs. Plante ta parole et ton amour dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions être et présenter au monde une dénomination du christianisme et de l'amour divin comme cette vieille biche l'a fait ce jour-là de la maternité. Accorde-le, Père, je prie pour chacun qui a levé la main, que cette expérience leur soit accordée. Peut-être qu'il y a ici qui ne connaissent rien de plus que d'être joints à une église. Ils n'ont jamais rien vu de réel. Mais il y a ici plus que Salomon, Jésus lui-même, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que l'auditoire dans l'attente en regarde la ligne de prière ce soir, voit la manifestation de l'amour de Dieu et de la vérité de Dieu, que sa parole est vraie, qu'il n'est pas mort, il est vivant pour toujours. Et en voyant cela, puissent-ils t'abandonner complètement leur vie et devenir tes enfants et avoir de l'amour dans leur cœur et qui, même si on les envoyait à la mort, ils seraient sans crainte. Comme David a dit, oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Comme cette maman biche qui est sortie de cette forêt directement dans l'ombre de la mort. Là, dans cette éclaircie, et David a dit, je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Tu es avec moi, Dieu, c'est ce que nous voulons tous être. Accorde-le, Seigneur, je le demande au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis désolé de vous avoir gardé si longtemps. Je ressens simplement que je ne peux pas être arrêté de parler, mais nous allons prier pour les malades maintenant. Je voudrais que vous gardiez tous vos sièges pour seulement quelques minutes. J'ai promis de passer au travers de la ligne de prière ce soir. Je veux le faire et je sais que nous sommes censés terminer plus tôt que cela, mais je sais que nous sommes sur le point et le gardien, j'apprécie vraiment votre gentillesse, monsieur, de ne pas éteindre les lumières, que la lumière de Dieu brille dans votre vie. Si elle n'est pas déjà là maintenant, vous amenez dans la gloire un jour. Maintenant, où est Billy? Quelle carte as-tu donnée? Ah, de 1 à 100, d'accord. Ils arrivent tout de suite alors que nous sommes pressés. Habituellement, nous, on les mélange. Et quand le garçon donne les cartes de prière, il les mélange juste devant vous et vous donne une carte de prière comme vous le souhaitez, voyez. Ainsi, elles sont tous mélangées. Nous ne savons jamais à partir de quel numéro nous allons être appelés. Beaucoup ici ont déjà assisté aux réunions. Ils ont entendu que ce garçon ne peut pas vendre une carte de prière car nous avons surpris un type qui faisait ça une fois. Nous ne pouvons pas faire ça. Il ne le sait pas non plus. Il a dit, eh bien, tu me donnes cette carte de prière. Est-ce que je vais entrer dans la ligne? Il ne le sait pas. Pour commencer, ils sont tous mélangés. Ils vous donnent simplement une carte et ils ne le sait pas. Et je ne le sais pas avant que nous arrivions ici. Généralement, je compte tant de personnes dans cette rangée-ci. Je divise par tant de personnes dans cette autre rangée et j'obtiens une réponse d'une certaine manière ou tout simplement un nombre pour commencer quelque part. Mais ce soir, nous allons omettre cela et commencer par le numéro 1 parce que nous sommes en retard et une carte de prière qu'un seul à la fois se lève et à mesure que j'appellerai votre numéro et vous ne pouvez pas vous lever, quelqu'un ira vous aider et vous amènera ici. Maintenant, combien ici n'ont pas de carte de prière? Vous êtes malade, priez simplement que Dieu vous bénisse. 1, 2, 3, 4. La dame ici, voulez-vous venir ici, madame? Numéro. Cela empêche qu'on soit comme dans une aréna. Vous savez, ici, c'est l'église. 6, 7, très bien. Numéro 8. Très bien. 8, 9. Je n'ai pas vu le 11 maintenant. Ça pourrait-il être quelqu'un qui est sourd, voyez-vous? Regardez la carte de prière de votre voisin. 11, oh. 11. Vous avez le 11? Vous, madame, vous avez levé votre main. Elle est sourde, je vois. 12, 13. C'est la 13, la carte de prière 13. 13. Très bien. Vérifiez la dame là-bas. Voyez, la dame est avec le chapeau bleu. Avez-vous la 13, 12? Et vous avez la 13, n'est-ce pas? 13? Je suis désolé. 14. D'accord. 15. Je pense que c'est à peu près tout ce que nous pouvons prendre en ce moment. Voyez simplement ce que la ligne ne soit pas encombrée. Maintenant, le reste d'entre vous qui n'avez pas de carte de prière, y a-t-il quelqu'un? Pour la première fois, voyons vos mains. Eh bien, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. Avez-vous déjà assisté aux réunions? Levez vos mains si vous avez déjà assisté dans une réunion. Très bien. Maintenant, tout le monde sait que nous prétendons pas être des guérisseurs. Nous ne pouvons pas guérir les gens. Jésus l'a déjà fait, mais nous prétendons qu'il est le même hier aujourd'hui et pour toujours. Et si nous pouvons seulement savoir et le reconnaître parmi nous, Jésus est ici. Il est ici. Et que vous pouvez le voir et de vos yeux, cela vous donnera-t-il la foi, c'est sûr. Mais vous voyez, il fera cela. Quand il viendra, le temps sera terminé. Il viendra pour nous alors, mais la personne du Saint-Esprit, maintenant, quelqu'un pourrait venir ici avec des cicatrices dans leurs mains et des épines sur leur visage qui ne serait simplement qu'un imitateur. Ce serait un imposteur. N'importe qui pourrait le faire. Mais même en cela, s'il ne démontre pas la vie de Christ, ce ne serait pas Christ, voyez. Et la Bible dit, il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de notre infirmité. Maintenant, vous les gens là-bas qui n'ont pas de carte de prière, prenons simplement quelques choses et dites, pendant que nous prions, dites simplement, « Oh, grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, s'il y a du péché dans notre vie, confessez-le et débarrassez-vous-en. » Et vous, dans la ligne de prière, faites la même chose, car soyez bien assurés que cela sera dénoncé ici même. Voyez, si vous avez quelque chose qui n'est pas en ordre, que vous ne voulez pas que ce soit dénoncé ici sur l'estrade, sortez de la ligne, car combien savent cela? Oui, monsieur, ce sera dénoncé ici même, alors mettez-le sous le sang. Voyez, et simplement pardonnez-moi mes péchés et aide-moi à te croire. Je suis malade, Seigneur, et je veux être guéri pour ta gloire. Voyez, Dieu ne guérit pas pour guérir, voyez, il ne le fait que pour la gloire de Dieu, et nous devons confesser nos péchés, nos incrédulités. Et regardez le Père qui a mené l'enfant atteint d'épilepsie que les disciples ne pouvaient pas guérir. Jésus a dit, « Je le peux si tu crois. » Et il a dit, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Voyez, il a crié parce qu'il avait un besoin. Maintenant, vous là-bas, avec priez Dieu et dites, « Dieu, frère Branham, ne me connaît pas, il ne me connaît pas, mais je sais que tu me connais. Alors, laissez-moi toucher ton vêtement, laissez-moi toucher ton vêtement parce que tu es un souverain sacrificateur. Et puis, parle à travers frère Branham et parle comme tu l'as fait avec la femme qui a touché ton vêtement sur la terre parce que tu es le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il devra agir. Combien pensez-vous ont cru ce jour-là lorsque cette femme l'a touché et est allée s'asseoir? Pensez-vous que cela a influencé des gens là? Voyez-vous, tout probablement, eh bien, cela a dû le faire. Eh bien, nous, les gentils, de ce jour, nous sommes tous aussi reconnaissants pour Jésus. Nous devrions être même plus reconnaissants. Voyez, cette petite femme l'a touchée. Elle est allée s'asseoir. Jésus a dit, « Jésus, juste un moment, qui m'a touché? Qui m'a touché? » Eh bien, Pierre l'a réprimandé. Il a dit, « Jésus, Seigneur, en d'autres termes, ce n'est pas une chose sensée à dire, ça. » Bon, eh bien, tu es bien reçu parmi les gens en tant que prophète. Pourquoi? Comment peux-tu dire qui m'a touché? Tout le monde te touche. Il a dit oui, mais différemment. C'était un toucher différent. Voyez, la vertu est sortie de moi, la force. Maintenant, de me toucher ne vous fera aucun bien. Je suis juste comme votre mari, votre frère, votre père, voyez. De toucher l'un des pasteurs serait exactement la même chose, voyez, mais le toucher lui, il est le seul. Je ne vous connais pas, je ne sais rien de vous, je ne pourrais pas vous guérir. Si je le pouvais, je le ferais certainement, mais je ne le peux pas. Je ne peux pas faire ce qu'il a déjà fait. Or, il se tenait ici. Il vous ferait connaître qu'il est parmi vous. Pensez-y simplement maintenant. Nous savons tous que nous nous dirigeons vers quelque chose dans l'immédiat. Nous pouvons le sentir. Maintenant, il y a un vrai et un faux. Il y a trop de chemins différents qui pointent, qui disent, eh bien, c'est le chemin, ça. Il doit y avoir un bon chemin quelque part. Et de penser que le même Dieu qui va vous juger au jugement des saints juste ici parmi vous, il se tient ici avec vous, là où deux ou trois ensemble en mon nom, je serai au milieu d'eux. Voyez, les œuvres que je fais, j'ai faites une fois, ils les feront aussi. Il a promis de le faire. Vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, à New York, voyez, partout dans le monde. Restez assis vraiment, calmement et priez. Croyez de tout votre cœur, ne doutez pas. Croyez seulement avec tout ce qui est en vous. Croyez âme, corps et esprit, et Dieu vous l'accordera. Maintenant, inclinons nos têtes. Juste un instant. Grand Créateur des cieux et de la terre, tout ce que j'ai déclaré ici ce soir et dit ne sera d'aucun recours à moins que tu viennes et prouves que c'est juste. Nous avons entendu tant de choses et des gens ont entendu tant de choses. Maintenant, une parole de toi, Père, le confirmera et nous attendons cela. Maintenant, nous savons que tu ne parles pas par des lèvres humaines. Tu ne parles que par des lèvres humaines. Tu as fait des hommes tes agents un jour et tu te tenais là et tu as dit, tu as regardé la moisson et tu as dit, elle est mûre et il a dit, « Priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et tu étais le Seigneur de la moisson. Mais tu as connecté ton programme, toi et les hommes ensemble, et tu ne fais rien en dehors de cela. Maintenant, je prie Dieu, et si tu me moins, sans moindre cet auditoire pour qu'elle croit, ça ne fera aucun bien. Nous devons être ensemble comme une seule unité en tant que frères et sœurs. Je prie Dieu pour que tu nous oignes ensemble afin que nous puissions voir encore une fois de ce côté-ci de l'éternité le glorieux Seigneur Jésus-Christ qu'il y a plus que Salomon. Nous le demandons en son nom. Amen. Bon, je veux que vous soyez aussi respectueux que possible maintenant. Un jour, si je meurs alors qu'ils me mettront dans la tombe, ils joueront cela. Vous savez, lorsque vous entendrez que je suis parti, ne croyez pas que je suis mort, je ne le suis pas. Mais arrêtez-vous quelque part et vous l'entendrez à la radio quelque part, ou le lisez dans le journal, chantez simplement ce chant, voyez-vous. Et rappelez-vous que c'est tout simplement ça, crois seulement. Maintenant, dans l'auditoire, il n'y a aucune personne dans cette ligne que je ne connaisse. Si chacun de vous dans cette ligne m'est étranger et que vous savez que je ne sais rien de vous, je ne sais rien de ce qui ne va pas avec vous, levez simplement la main. Dites-le. Maintenant, vous êtes peut-être malade. Peut-être qu'ils ne le sont pas. Je ne sais pas. Ça pourrait être des problèmes financiers, des problèmes familiaux. Je ne sais pas. Bon. Maintenant, c'est la petite dame ici. Veut bien s'approcher, voyez. Merci, c'est très bien, merci. Voici une femme beaucoup plus jeune que moi. Nous sommes probablement nés à des années de différence, à des milliers de milles de distance. C'est notre première rencontre. Maintenant, elle est ici pour une raison quelconque, je ne sais pas. Peut-être la maladie, je ne sais pas quel est son problème. Quel que soit son problème, Dieu la connaît. Et s'il le révèle, elle saura si c'est la vérité ou non. Maintenant, si la petite dame disait, Frère Branham, je suis terriblement malade et mon estomac me dérange, j'ai des convulsions ou quelque chose d'autre, elle a l'air en bonne santé, mais vous ne pouvez pas toujours vous fier à cela. Si elle disait cela, je disais, eh bien, la Bible a dit, imposer les mains aux malades, ce serait. Et ainsi que Frère Roberts prierait pour elle, Frère Allen et un bon nombre de ses... Tes hommes, c'est leur ministère ainsi. Ils leur imposeraient les mains en disant, « Satan, laisse-la dans le nom de Jésus. Je te réprimande, Satan. » Ou quelque chose comme ça en disant, « Vous pouvez partir maintenant. Vous êtes guéri. » Elle devrait le croire. Vous voyez, ce serait très bien. Bon, maintenant, qu'en est-il? Si elle est un péché caché là, quelque part, vous pourriez verser un gallon d'huile sur elle, loindre tout autant de fois, sautiller et crier, « Le démon restera là. » Un péché non confessé, vous ne le bougerez jamais. Non, monsieur. Mais bon, si le Saint-Esprit peut descendre et lui dire quelque chose qui s'est passé, elle saura si c'est vrai ou pas, et ensuite lui dévoiler ce qui sera. Si ce qui a été vrai, ce qui sera vrai, n'est-ce pas? Maintenant, c'est la bonté de notre adorable Seigneur essayant de réunir son épouse dans ses derniers jours. Vous voyez ce qu'il a promis de faire? Combien croiront-ils en lui de tout leur cœur s'il fait une telle chose? Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité maintenant. Si vous voulez dire, je vous demande, si vous m'avez surprise en dehors de l'Écriture, dites-le-moi, voyez. Écrivez-moi une lettre ou dites-le à l'un des pasteurs et dites-moi où j'ai tort et je veux avoir tort. Je veux avoir raison et dois s'agir de cette parole. Maintenant, prenons juste un peu comme ceci. Reprenons Jean 4. Voici un homme et une femme qui se rencontrent pour la première fois comme un Seigneur et la Samaritaine. Ils se rencontraient pour la première fois et Jésus lui a parlé un peu jusqu'à ce qu'il trouve son problème. Son problème était l'immoralité. Il lui a dit quel était son problème et rapidement, elle a reconnu cela, qu'il devait être un prophète. Il a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Elle a dit, « Nous savons que le Messie doit venir. Quand il viendra, c'est ce qu'il fera. » Jésus a dit, « Je le suis, voyez. » Maintenant, si c'est ainsi qu'il s'est identifié devant les gens hier, s'il est le même aujourd'hui, il devrait s'identifier de la même manière. Et si le Saint-Esprit lui a dit cela à elle, elle savait que cela devait provenir d'un domaine spirituel. Cela ne pouvait pas provenir d'un domaine naturel. Ça vient d'un domaine spirituel. Bon, elle aurait pu dire comme les pharisiens, c'est Belzébul, il n'en tenait qu'à elle. Elle a dit, c'est le Christ, alors cela revenait à elle et à Christ, voyez, ce qu'il en était. Maintenant, soyez réellement respectueux, j'attends un instant cette onction, c'est ce que m'attends, voyez, parce qu'elle pourrait ne pas venir du tout. Si elle ne vient pas, alors nous inclinerons notre tête et nous renverrons l'auditoire et nous reviendrons demain soir et lui demanderons s'il ne m'a jamais failli encore. Maintenant, devant des centaines de milliers, une certaine fois, il m'a jamais laissé tomber. Il ne le fera pas cette fois-ci. Je ne le ferai pas. Je sais qu'il ne le fera pas. Voyez, c'est simplement qu'il ne le fera pas. Alors, voyez, je pense que l'heure de fermeture est dépassée. Vous ne pouvez pas avoir... Le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer à travers vous. Si vous êtes troublé, vous devez vous calmer. Maintenant, il y a des frais supplémentaires ce soir, je vais les payer, voyez. C'est tout, Satan, tu ne peux pas nous jouer comme ça. Je prends sous mon contrôle et mon commandement, tout esprit ici, au nom de Jésus-Christ. Je vais parler à la petite dame. Maintenant, si le Saint-Esprit sort simplement, Jésus a parlé à cette dame juste le temps de saisir son esprit, voyez, pour voir ce qu'il n'allait pas. Et je crois que ce qu'il a fait, le Père l'avait envoyé là-bas. Il devait passer par la Samarie, mais quand il est arrivé là-bas, c'est tout ce qu'il savait, qu'il était là-bas. Voici qu'arrive la femme. Il savait que ça devait être l'heure. Maintenant, le Père m'a envoyé ici. Je suis ici à New York et vous êtes ici, la première personne sur l'estrade ce soir. Je ne le sais pas, mais il va me le révéler. S'il le veut, cela vous fera-t-il croire en lui de tout votre cœur? Vous l'accepterez. Vous saurez si c'est vrai ou pas. Voyez, vous ne me connaissez pas et vous êtes... Et vous êtes un étranger, mais votre problème, c'est que vous avez plusieurs problèmes, mais le principal problème pour lequel vous voulez que je prie, c'est dans votre gorge. Vous avez des problèmes de gorge, est-ce vrai? Levez votre main. Le croyez-vous? Juste un instant. Maintenant, tout ira bien. Vous dites, vous avez pu le deviner, frère Branham. Non, jamais. Je ressens toujours cela dans l'auditoire. Il l'a deviné. Maintenant, j'ai juste un instant. Parlons à elle seule. Vous êtes consciente que quelque chose se passe, voyez? Maintenant, dans l'auditoire, combien ont vu cette photo de l'ange du Seigneur, cette lumière? Elle est affichée à Washington, D.C., voyez? Elle se tient tout près d'elle à cet instant, voyez? Ne le voyez-vous pas? Elle est comme... Bien sûr, l'onction est ici maintenant. Je peux la voir, voyez? Elle est en plein sur elle, oui. La voici, elle a... Oui, son trouble est dans sa gorge, elle s'est inquiétée. Eh bien, elle a une tumeur dans sa gorge, c'est tout à fait vrai. Non seulement cela, mais vous avez un problème de thyroïde qui vous dérange, est-ce vrai? Voyez très bien, croyez-vous maintenant que c'est Jésus-Christ qui est ici, qui vous connaît ainsi que tout à ce propos? L'acceptez-vous en tant que votre guérisseur? Allez, soyez rétablis au nom du Seigneur. La ligne, voyez simplement, et connaît toutes choses. Comment allez-vous, jeune dame? Maintenant, vous êtes un peu secouée, vous voyez, parce que aussitôt que c'est arrivé, la dame est arrivée. Cette lumière est venue directement sur elle, voyez. Elle en est consciente. Regardez maintenant, je ne connais pas la femme. Je ne sais rien à son sujet, mais elle se tient là, simplement une jeune femme. Et maintenant, si le Saint-Esprit peut me révéler ce que vous attendez de Dieu, vous êtes une chrétienne, voyez. Et si vous ne l'étiez pas, bon, il me le dirait, voyez, mais vous êtes une chrétienne. Je veux dire, une véritable chrétienne. Et s'il veut bien me révéler ce que vous attendez de lui, croyez-vous que je suis son prophète ou son serviteur? Je dois dire cela, voyez, l'heure viendra, voyez, croyez-vous? Vous savez que je suis un étranger. Maintenant, ce n'est pas vraiment pour vous que vous êtes ici. Je vois une femme âgée, c'est vrai. C'est votre mère. Ah, elle n'est pas ici. Vous avez été très préoccupé à son sujet. Elle est également tourmentée par le cancer. Et vous vous inquiétez de sa condition. Croyez-vous, jeune dame, que c'est le Saint-Esprit qui fait cela? Maintenant, prenez ce mouchoir dans votre sac à main et rentrez chez vous quand votre... Vous verrez votre mère que vous lui enverrez et vous lui mettrez en lui, enverrez le mouchoir en commémoration de cette prière ce soir. Ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez en Jésus. Oui, l'obscurité le quittera et elle sera. Vous irez bien. Allez maintenant, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Allez-vous croire de tout votre cœur maintenant? Ne doutez pas, ayez simplement foi. Juste un instant. Excusez-moi un instant, il s'est produit quelque chose. Il y a quelque chose qui est apparu ici, qui est la dame pour qui je viens de prier ici. Où est-elle? Oh oui, c'est ça. Juste un instant. Non, juste une seconde. Le Saint-Esprit, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Vous voyez, c'est une lumière et ça continue. Oui, c'est cette femme de couleur assise juste ici. Oui, vous étiez assise là en priant pour la guérison. Maintenant, vous m'êtes inconnu. Je ne vous connais pas, mais croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour toujours? Croyez-vous que l'hypertension artérielle vous quittera et que vous irez bien? C'est ça pourquoi vous priez, voyez? Croyez-le, qu'a-t-elle touché? Elle ne peut pas me toucher, elle est trop loin de moi. Elle a touché le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Croyez simplement maintenant, voyez, vous n'avez pas besoin de monter ici. Restez là, croyez simplement, c'est tout ce que je vous demande de faire, croyez seulement. Voici une dame assise ici au fond, ici, regardant par ici en priant. Elle ne prie pas pour elle-même, elle prie pour un être cher parce que Ceci, quelqu'un vient juste de quitter ici, qui priait pour un être cher, une femme pour sa mère. Mais cette dame prie pour son père. Et son père, je vois une mère agitée. Il n'est pas, il est d'outre-mer ou quelque chose, la Norvège ou un Norvégien. C'est tout à fait juste. Croyez au Seigneur Jésus, jeune dame, et votre père sera guéri. Maintenant, qu'a-t-elle touché? Demandez-lui si elle me connaît. Pourquoi vous priez? Agitez vos mains si c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes étrangers, est-ce vrai? C'est vrai, très bien. Vous avez votre quête, si seulement vous y croyez. Qu'est-ce qu'elle a touché? À 20 mètres de moi, elle a touché le souverain sacrificateur. Voyez par moi, je ne le connais pas, mais elle a touché le souverain sacrificateur, l'aimable Seigneur Jésus qui est avec nous ce soir. Vous êtes une étrangère, est-ce le... La patiente, est-ce la personne? Voyez, je dois juste suivre cela de la façon qu'il me conduit. Voyez, comme cette femme, voyez, il l'a choisie, voyez, elle a touché Dieu par son intermédiaire. Eh bien, ces gens là-bas, c'est ce qu'ils font. Ils sont en train de toucher Dieu, voyez, je dois me toucher du côté de cela, est en train de me traiter. Maintenant, nous sommes étrangers l'un à l'autre, et je ne vous connais pas, et je ne vous ai jamais vu de ma vie. Nous sommes étrangers, et les gens verront que nous sommes des étrangers, nous ne connaissons pas. Maintenant, si le Seigneur me révèle quelque chose de vous, savez que je ne sais rien, il faudrait alors que cela révèle d'une puissance surnaturelle. Vous voyez la guérison divine, si vous voulez la guérison. Je ne sais pas ce que vous voulez, voyez. Parfois, c'est pour quelqu'un d'autre, et des problèmes familiaux, ou des finances, ou des choses, mais il peut pourvoir à tout. S'il sait ce que vous avez besoin, il peut me le révéler. Révéler, voyez. Et puis, s'il le fait, alors vous saurez que c'est lui, voyez. Vous saurez qu'il faut que ce soit lui. Est-ce que cela fera en sorte que vous croyez tous? Très bien, croyez. Bon, elle semble être une personne agréable, voyez. Maintenant, parlons un instant. Maintenant, elle est partie. Elle est allée dans l'auditoire. Quelqu'un, soyez respectueux, voyez. C'est cette grande soif de foi, ça ne prend que... Vous le sentez, la vertu. J'ai prêché environ 1 heure et demie et une seule vision m'affaiblit plus que 10 heures de prédication. La force, la vertu est la force. Voyez, vous suscitez cela. Ce n'est pas moi, je ne le fais pas. Ces visions ne viennent pas de moi. C'est vous qui les suscitez. C'est votre foi en Dieu qui le fait. Ce n'est pas moi, je ne le fais pas. Je ne me tiens ici comme un représentant simplement. Comme ceci, c'est un muet. Ce micro en moi qu'une voix s'infiltre dedans. Il ne peut pas parler de lui-même, pas plus que je ne peux parler. C'est lui, le vivant, Christ, le vivant. Il parle, il sait qui vous êtes et ce que vous avez fait. Revenons parler à la dame. Seigneur Jésus me révèle quelque chose dans votre vie et que peut-être que vous attendez de lui parce qu'étant une croyante, vous lui demandez quelque chose. S'il me le révèle, croyez-vous que vous le recevrez? Vous le croirez? Maintenant, votre problème est dans l'estomac. Un examen a démontré que votre estomac était descendu. C'est vrai. Est-ce exact? Et voici une autre chose dans l'examen. Ils ont trouvé une tumeur dans votre estomac. Est-ce vrai? Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? Madame Willard, rentrez chez vous et maintenant et croyez. Vous croyez de tout votre cœur? Maintenant, demandez à la dame. Nous ne nous sommes jamais vus de la vie, mais c'est le Saint-Esprit qui est ici. Maintenant, soyez réellement respectueux. Dites-moi si vous avez assez de temps maintenant, voyez-vous? Maintenant, comment allez-vous, monsieur? Bon, nous sommes étrangers l'un à l'autre, et vous êtes conscient qu'un jour nous devons rencontrer Dieu. Et étant un étranger pour moi et moi pour vous, si le Seigneur Jésus me révèle vos problèmes, croirez-vous que c'est lui? Et vous savez que un homme ne serait pas cela, mais il faudrait que cela soit lui qui le fasse, est-ce vrai? Je n'aime pas dire ceci, le garçon est recouvert d'une ombre, voyez, il est de l'obscurité sur lui, c'est très grave. Vous avez un cancer, c'est vrai, et une radiographie a révélé que le cancer est dans l'estomac. Et qu'aussi, c'est sur la paroi de l'estomac, c'est sûr, c'est vrai. Est-ce vrai? C'est là que je vois la photo, la radiographie, c'est la paroi de l'estomac maintenant. Cela signifie que vous devez bientôt partir, à moins que Dieu vous aide. Acceptez-vous, mon frère, Jésus, le cancer n'est rien pour Jésus-Christ, pas plus que mal de tête. Le croyez-vous? Maintenant, quelque chose vient de se produire en vous. Vous avez une très bonne sensation, voyez. Maintenant, si vous continuez de croire comme ça, l'ombre vous a laissé, voyez. Votre foi vous a sauvé. Allez en croyant. Maintenant, puisse Dieu vous rétablir. Dieu peut guérir l'arthrite. Ne croyez-vous pas cela? Eh bien, commencez simplement à marcher en disant « Merci, Seigneur Jésus. » Si tu peux croire, tout est possible à ceux qui croient. Très bien. Cela vous a fait vous sentir étrange quand j'ai dit « arthrite ». C'est ce que vous avez. Aussi, vous ne pouvez pas difficilement vous lever le matin. Cela vous redit. C'est fini maintenant. Si vous le croyez, retournez, allez en y croyant. Que le Seigneur vous bénisse. Croyez-le simplement. Un problème d'asthme, vous voyez? Croyez-vous que Dieu peut guérir cela? Recevez-le. Allez, Jésus-Christ vous rétablira et croyez de tout votre cœur. Vous voulez aller manger votre souper, en profiter? Que ce problème d'estomac soit terminé, vous en allez et bien vous porter. Allez, croyez-le, si tu peux le croire. Dieu peut guérir les problèmes de dos et toute autre chose, ne le croyez-vous pas? Croyez-vous qu'il peut guérir les vôtres? Allez votre chemin. Croyez-vous que je suis son prophète ou son serviteur? Vous croyez que Dieu peut guérir des troubles cardiaques? Allez, repartez, croyez-le. Vous avez un trouble gynécologique pour une chose et de l'arthrite. Est-ce juste? Croyez-vous qu'il est guérisseur divin? Acceptez-le en tant que votre guérisseur. Allez, réjouissez-vous en disant « Merci Seigneur ». Vous avez un problème gynécologique qui vous dérange depuis longtemps. Vous avez également des problèmes cardiaques. C'est sur le point de vous tuer. Vous avez un battement sur un cœur qui bat lentement. Croyez de tout votre cœur et cela vous importunera plus jamais. Allez, croyez-le. Un problème de sang. Croyez-vous que Dieu peut guérir ce sang de cet état d'anémie et de le rétablir? Croyez-vous cela? Très bien. En croyant, ce diabète ne vous dérangera plus. Croyez de tout votre cœur. Croyez-vous qu'il vous a guéri ici-là? Croyez-le de tout votre cœur. Et croyez-vous que c'est Dieu qui vous a rétabli totalement? Que Dieu vous bénisse. Allez votre chemin et réjouissez-vous. Amen. Ce problème de dos ne vous dérangera plus jamais. Cela vous fait vous sentir vraiment bien, n'est-ce pas? D'accord. Allez, vous réjouissant, dites merci Seigneur et croyez-vous de tout votre cœur. Le sang dans votre sang, il coule clair du diabète. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir du diabète? Alors, au calvaire, pour une transfusion sanguine, il vous l'enlèvera. Vous avez des problèmes de poitrine, n'est-ce pas? J'allais vous appeler il y a quelques minutes, vous me regardiez et je me suis retourné et je vous ai regardé. Vous avez croisé mon regard et baissé les yeux. Un sentiment vraiment étrange est venu sur vous. Le problème de poitrine vous ont laissé. C'est parti. C'était une condition nerveuse qui bloquait votre poitrine. Je vous défie de croire Dieu Jésus-Christ le même hier aujourd'hui et pour toujours. Le croyez-vous? Très bien. Si vous croyez de tout votre cœur, imposez-vous les mains et les autres. Et il ne peut pas faillir. Il est Dieu, l'aimable Seigneur Jésus, sa puissance ressuscitée, son identification. Que tout le monde impose les mains les uns aux autres. Père Céleste, l'ennemi est en fuite. L'ennemi est vaincu. Jésus-Christ vit et règne. Ô Dieu, sois miséricordieux et accorde la guérison de ces personnes. Satan, tu as perdu la bataille. Jésus-Christ a gagné la victoire dans cet auditorium ce soir. Tu es exposé. Tu n'es qu'un bluff. Et nous te l'ordonnons de l'amour du calvaire. Sors de ces gens. Au nom de Jésus-Christ, laisse-les et qu'ils soient libérés. Que le Seigneur vous bénisse.